Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses. Vous écoutez la chronique Jeux du mois sur Proxy Jeux. Je suis Benoît Fix et aujourd'hui, un épisode du jeu du mois un petit peu particulier puisque nous sommes en direct du week-end proxy jeu avec Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Benoît Fix.
Ça va bien?
Bah, très bien.
Le week-end se passe bien?
Bah, ça se passe super bien. C'est cool, on a du soleil, il fait beau, il y a du monde, tout le monde sourit et tout le monde joue.
On sort d'un barbecue qui était fort alléchant.
Ouais, c'était cool.
Et bah, comme on est week-end proxy jeu, bah, il y a plein de monde. Et du coup, bah, pour cette émission, on aura deux invités, surprise, mais que vous connaissez bien.
Exceptionnel. La pointure du podcast.
Il y a le premier invité qu'on voit partout en ce moment, c'est le Pionfesseur. Salut Pionfesseur.
Salut Beno FX. Salut Cyrus.
Et on reçoit également notre ami Père Castor. Salut Père Castor.
Salut Beno FX. Salut Cyrus. Salut Pionfesseur. Et merci de m'accueillir dans votre chronique.
Eh ben, c'est avec plaisir. Hein.
Plaisir.
Du coup, comme d'habitude, on va vous parler de deux jeux. Pour ma part, je vous présenterai Shadows Amsterdam.
Et de mon côté, je vais parler de Fuji.
Mais avant ça, est-ce qu'on a des commentaires, Cyrus, sur la précédente émission?
Oui, on a quelques commentaires de l'émission précédente. Donc, dans l'émission précédente, je rappelle qu'on a parlé de Chakra et de Res Arcana. Donc, on a Zab Brannigan. Alors, on a surtout des retours concernant Res Arcana. Faut croire que, on voit le jeu pas mal hein, sur les réseaux sociaux en ce moment. Ça buzz pas mal. Donc,
je te laisse t'occuper des commentaires, du coup.
Ouais, allez, voilà. on va faire ça. Donc, du coup, il y a Zab Brannigan qui dit qu'il aime beaucoup Res Arcana et qui nous apporte un éclairage sur l'éditeur. Parce qu'en fait, on rigolait un peu en disant, quand même, ils ont réussi à aller chercher un jeu de Tom Lehman. Et en fait, il se trouve que l'éditeur, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans chez Days of Wonder, qui donc a monté sa maison d'édition. Donc,
il y a un petit peu de bagage, quoi.
Ouais, il devait avoir aussi des contacts. Et ça explique aussi peut-être la facilité à trouver une distribution chez Asmodée, parce que on disait, l'auteur, ouais, ça a dû jouer, mais pas que. Voilà, peut-être. Voilà, donc merci pour cette info. Mais effectivement, on n'était pas allé se renseigner là-dessus. Ensuite, il y a Altaripa qui est parmi nous d'ailleurs.
Qui est là d'ailleurs.
Ouais, au week-end pour que ces jeux. C'est dommage, on parle de lui.
Il est en train de jouer. Je sais pas à quoi il joue.
Qui parle des dragons.
Joueur The River.
Parce qu'on a fait toute une théorie concernant les dragons.
Bah, on va le faire venir, ce sera plus simple.
Ouais, carrément, t'as raison.
Altaripa!
Il est en train de jouer à The River, mais bon. je pense que c'est plus intéressant d'enregistrer notre podcast que de jouer à The River.
Ouais, j'avoue que je partage un peu ton sentiment.
Ah, bah il arrive. Bonjour Altaripa, tu vas bien?
Salut, ça va bien, ouais.
Bon, alors on était en train de parler des commentaires qu'on a eu sur l'émission précédente,
oui.
Et bah on a vu que t'en avais laissé un, donc on s'est dit que comme t'es à côté de nous, autant que tu nous l'expliques toi-même.
Je me souviens de ce que j'ai...
Ah bah ouais, est-ce que tu peux commenter ton commentaire? Et Fred Laloutre, il avait fait un commentaire ou pas? Parce que il traîne dans les parages aussi.
Oui, donc c'était sur les dragons pour Res Arcana. Utiliser les dragons pour attaquer les adversaires, c'est pas forcément super utile. Ça peut des fois servir à juste ralentir un adversaire si on a besoin juste de le ralentir au bon moment.
Ouais, ça peut surtout si on a rien à faire avec le dragon, quoi.
Voilà, exactement.
Tu veux dire que Cyrus a donné des mauvais conseils stratégiques?
Non, mais juste l'utiliser que pour ça, ça sera pas profitable sur le long terme. Mais par contre, il peut être utilisé avec un des lieux de puissance qui fait 2 points par dragon et 1 point par créature. Du coup, ça peut être très utile avec ça. Et puis, je sais plus si c'est celui-là qui permet de construire les dragons qui sont dans la défausse des adversaires.
Alors, ouais, c'est pas ça, mais il y a le même lieu de puissance, son recto, a un autre effet, qui en gros permet de poser les dragons plus facilement et de faire des points en engageant un dragon plus le lieu de puissance. Et je peux le dire, j'ai gagné hier avec. Voilà.
Ouais, donc ça, c'est une manière qui peut être très efficace de jouer.
Et puis une remarque sur l'or aussi.
Sur l'or, donc effectivement, on peut faire un moteur uniquement sur l'or aussi. Et c'est ce que j'ai fait hier à une partie, et donc du coup, je pouvais faire 4 ors par manche. Donc j'achetais un monument par manche, voilà.
Et t'as gagné?
Pour finir, j'ai pas gagné parce qu'il manquait un point. Je devais passer pour avoir les 10 points, et puis l'autre a passé juste devant moi pour aider. Puis ouais. Au final, il a terminé 13, puis moi 12.
Voilà. Ok, donc c'est presque efficace. Les moteurs d'or, ça peut bien marcher, mais.
Bah ça peut marcher s'il avait pas décidé de passer juste au bon moment. Je passais, j'avais les 10 points, et lui il arrivait pas à monter à 10. Donc voilà, ça s'est joué sur pas grand chose.
Ça marche.
Bah, merci.
Bah, écoute, merci, d'être venu nous commenter ton commentaire.
Merci.
Et n'hésite pas à en remettre parce que c'est super important les commentaires.
Ouais. Ouais. Je sais plus, j'en ai mis un sur, je sais plus la chronique, pas sur une autre chronique, genre.
Bah, c'est toujours,
donné, quoi.
C'est toujours les bienvenus.
Voilà.
Merci. À plus.
Donc ensuite, on avait Philippe Leray et Arnaud Van Meusewinkel qui revenaient sur le débat tester-jouer. Hein. Je vous laisse. Ils sont pas là. du coup, bon, je vous laisse aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse.
Et on teste, on joue alors.
Bah, je sais pas, justement, ils disent que des fois, on joue essentiellement, mais que
il y a des,
que,
y a,
que
y a des occasions où c'est vraiment du vrai test. Voilà.
Et Twin, évidemment, toujours fidèle au poste, bah, qui parlait aussi de Res Arcana, qu'il aime beaucoup, et il trouvait des sensations assez proches de Race for the Galaxy, avec notamment la pression pour finir au bon tour, voilà, plein de choses comme ça. Et puis, il nous disait aussi qu'il fallait qu'on change le nom de la chronique, pour que la chronique s'appelle désormais Les bons jeux en rupture ce mois-ci.
C'est vrai que ça arrive très souvent.
Voilà. Eh bien, on va le contredire dans cette chronique, puisque nous avons parlé de deux jeux qui ne sont pas en rupture.
Oui. Alors, pour ma part, je vais parler de Shadow Amsterdam, qui est sorti déjà il y a un certain temps.
C'est vrai.
Donc, alors je sais pas s'il a été en rupture à un moment, mais en tout cas, je pense qu'il a été tiré à assez grand nombre d'exemplaires. Et que s'il a été en rupture, vu le temps qui s'est passé, il a eu le temps d'être réapprovisionné déjà.
Voilà, c'est ça. Donc, bah, Fuji, on l'a dit.
Ouais, bah, on va te laisser commencer par Fuji. Moi, j'y ai pas joué, personnellement. Et, du coup, Père Castor, qui est avec nous, y a joué, le Pion Fesseur aussi. Donc, moi, je vais rebondir sur les questions, mais, je vais laisser plus, Père Castor et le Pion Fesseur, contredire si tu racontes des conneries.
Ok, tu bosses pas, quoi, du coup.
Bon, si je comprends pas ce que tu racontes, je dirais, mais,
okay,
autant se servir de nos acolytes.
On va faire ça. Bah, allez, on est parti. Donc Fuji, bah, c'est un jeu de Wolfgang Warsch. On peut dire que c'est l'auteur à la mode du moment. Hein.
Encore lui.
Oui, encore lui. C'est un jeu qui est édité à l'origine par Feuerland Spiele, donc un éditeur allemand, et bah, localisé en français par Super Meeple. C'est un jeu qui a été illustré par Weberson Santiago, qu'on a trouvé sur l'Auberge Sanglante et sur...
Art of War,
merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur toi.
Donc on va retrouver les graphismes assez cubiques et les couleurs à la fois en même temps pastel et je vais pas dire délavé, mais cet effet un peu
comme
passé,
lancé,
quoi.
Ouais. Je sais pas.
Très sombre aussi. Hein.
Ouais, assez sombre, c'est vrai. Mm. Donc c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties annoncées de 30 à 1 heure, de 30 minutes pardon à 1 heure, 30 heures ça fait beaucoup. Et pour un tarif de 29,90€ chez Philibert. Alors le principe du jeu, c'est en fait, ben, c'est un jeu coopératif déjà pour commencer. Donc nous allons jouer tous ensemble, dans lequel nous allons incarner des aventuriers en train de gravir le mont Fuji, jusqu'au moment où celui-ci se réveille et donc une éruption intervient. Il va falloir s'enfuir, donc redescendre le mont Fuji à pied le plus vite possible et se réfugier dans le village au bas du mont. À chaque tour de jeu, on va lancer des dés que les joueurs donc ont devant eux. Il va falloir qu'ils se concertent entre eux pour parce qu'en fait en gros ils vont se gêner donc en fonction des cases qu'ils ont souhaité atteindre ils vont se concerter pour savoir s'ils vont relancer ou pas leur dé, ce genre de choses, le but étant bah, comme je disais d'atteindre une certaine case et enchaîner comme ça.
Et le but c'est pas de se télescoper en fait, c'est surtout ça qui est compliqué.
Voilà, les joueurs en fait ce qu'il faut retenir en tout cas sur le principe c'est qu'on va se gêner, il va falloir réaliser des combinaisons et on peut gêner avec ses voisins.
Alors c'est un jeu coop, mais on peut se gêner entre
ouais, c'est ça, ouais.
Entre joueurs.
Et sans le vouloir en fait, et sans le savoir souvent.
Ouais.
Ouais, parce que t'as vraiment un système assez intéressant de communication limitée. Tu jettes des dés, ils sont derrière un paravent. T'as pas exactement le droit de communiquer sur ce que tu as exactement derrière ton paravent, mais tu peux dire ah là je pense que mon résultat de dés va te gêner, donc va pas sur cette case, tu vois.
C'est exactement ça.
Mais c'est toujours difficile de jauger en fait quelle est la contrainte ou la limite que tu te fixes dans la communication. Mmh. Parce que clairement on se dit t'as pas le droit de soulever ton paravent pour montrer les dictats parce que sinon le paravent il sert à rien. En même temps t'as pas vraiment le droit de communiquer sur les valeurs ni sur les couleurs que t'as. Mais tu peux que donner des indications un peu à la mode, façon chevalier de la table ronde. Ouais.
Ça fait exactement penser à ça tout de suite. Hein, ce principe. En gros on est dans un jeu coopératif. Avec un système de communication brouillé. On retrouve un peu du coup la patte The Mind de Wolfgang Warsch là-dessus, où on est dans un jeu de communication coopératif, mais avec un gros twist. Quoi.
Et il a fait un autre jeu comme ça aussi là sur Kickstarter. Wavelength, un truc comme ça.
C'est ça aussi, c'est un principe un peu dans ce style-là de communication partielle.
Ouais, c'est de la communication partielle où tu dois faire ressentir quelque chose par rapport à une échelle analogique, pas numérique, un peu comme Profiler. Ouais. Mais sauf que dans Profiler, ça va de moins 5 à plus 5. Là, c'est vraiment quelque chose d'analogique, quoi. Mmh. C'est comme, je sais pas, une barre de vie dans un jeu vidéo et tu vas mettre un curseur à un endroit de la barre, quoi.
Chaud-froid,
ouais, exactement.
Heureusement que t'as pas utilisé le mot digital, du coup. Parce que...
ça n'a rien à voir.
Tu peux faire la jauge avec ton doigt aussi, hein, c'est possible. Donc voilà, ça c'est pour le principe général du jeu. Pour rentrer un petit peu plus en explication, le jeu va se décomposer en 6 phases. Donc chaque joueur a un personnage avec une capacité spéciale. Il a également des objets, des équipements. Donc tout ça c'est aléatoire, hein, ça va faire un mix relativement unique. On va dans une partie à l'autre. Donc avec une asymétrie entre les joueurs. Ah, on est en live en plein week-end, hein, donc là c'est vous avez pu entendre la voix de mon fils qui joue à cache-cache. Donc les joueurs donc sont placés sur une sorte de parcours. On va utiliser des cartes qui vont représenter un parcours sur lequel il va falloir.
Alors le parcours il est choisi aléatoirement parmi un ensemble de parcours différents, c'est ça.
Il y a un certain nombre de schémas, on va dire, qui sont proposés. À la limite, on pourrait faire un peu ce qu'on veut. Hein. Le tout c'est de respecter le nombre de cartes.
C'est un peu des scénarios prédéfinis, on va dire.
Oui, c'est ça. Oui. Même s'il n'y a pas de grosses différences d'un scénario à l'autre, hein, c'est juste.
Par contre, tu dois respecter une forme de chemin. Mais les cartes en elles-mêmes sont tirées aléatoirement.
Voilà.
Ouais.
Ce qui fait qu'effectivement, si tu rejoues un scénario, entre guillemets, identique, bah, en réalité, il va pas être identique du tout. Parce que ce positionnement des cartes va vraiment avoir un rôle important. J'y reviendrai, mais. Donc, le jeu va se décomposer en 6 phases. La première phase, chaque joueur lance l'ensemble de ses dés, qui est derrière son paravent. Il y en a entre 5 et 6. Les dés, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 couleurs sur les dés. Donc il y a les faces en opposé en fait sont les mêmes couleurs. Et donc il y a 3 couleurs différentes. C'est les mêmes couleurs, hein, sur les dés, hein, mais il y a 3 couleurs à chaque fois. Mais les dés sont de types différents. En gros, il y a 3 lots de dés différents. En gros, il y a les 3 couleurs, je crois que c'est bleu, rose et jaune. Et en gros, il peut y avoir le 6 qui est jaune. Donc, du coup, le 1 aussi est jaune. Le 6 peut être bleu ou le 6 peut être rose.
En tout cas, t'as chaque couleur à sa valeur numérique.
C'est ça, ouais. Il y a à chaque valeur, il y a associé une couleur.
C'est parti sur les 3D.
C'est ça. Donc ça, c'est la phase 1, simplement lancer. La phase 2, on va arriver dans cette fameuse phase de communication sans communication. C'est-à-dire que les joueurs vont signifier leur volonté de se déplacer sur une case en particulier. Là, les cases vont matérialiser une combinaison. En fait, elles vont dire, bah, pour venir ici, il faut réaliser une certaine combinaison. Je sais pas, par exemple, avoir des 5 et des 3.
Quelle que soit leur couleur, par exemple.
Quelle que soit leur couleur, voilà. Des 5 et des 3. Ça veut dire que...
T'as une autre combinaison qui peut être, faut avoir le maximum de dés jaunes.
Voilà.
Et additionner les valeurs.
Des... valeurs, voilà. Et le principe,
ouais, en fait, non, c'est des majorités, fois... hein, c'est pas des combinaisons, attention.
Ouais, oui, enfin, non, ça veut dire ça te signifie une... enfin, ce qu'on retient comme
une condition,
comme dé, quoi. Une condition. Peut-être une condition, ouais. c'est plus pertinent. T'as raison. Une condition à respecter, et c'est uniquement cette condition-là qu'on va regarder. Donc, c'est-à-dire que si j'ai dit par exemple, je veux aller sur la case qui compte les 3 et les 5, je ne vais compter que les 3 et les 5. Je ne compterai pas les 6, par exemple. Ok. Mais je vais additionner tous mes 3 et tous mes 5. Donc, si j'ai 2, 5 et 2, 3, bah, ça va me faire 16. Ok. Et l'autre joueur qui sera allé sur la case où on compte que les jaunes, ben s'il a des roses et des bleus, on les comptera pas. Ok. Donc chacun va dire comme ça où est-ce qu'il souhaite aller. Et c'est là que les problèmes commencent, puisqu'il va falloir être plus fort dans cette condition.
Par contre, là, t'as le droit de communiquer et te dire, oh, attention, t'as choisi une case sur laquelle il va falloir que t'aies par exemple des 3 et des 5.
Moi, j'en ai beaucoup.
Mais là, t'as
droit de dire ça. Dire attention, moi j'en ai beaucoup.
Bah, tu peux dire attention
c'est risqué parce que
je pense que tu vas être embêté là si tu vas là. Et là du coup effectivement tu commences un dialogue suspendu à une condition de ne pas parler des valeurs, de pas évoquer son total, pas trop parler des les couleurs encore ça a l'air d'être toléré dans le jeu. Bon, c'est assez flou hein, sur cette partie-là, hein, c'est un petit peu l'interprétation des joueurs au final. Chacun peut aller gérer le niveau du jeu un peu comme il veut là-dessus. Mais bon, c'est tout le sel du jeu, il est là quand même. Hein. Donc, moins on arrive à en exprimer, finalement, mieux on appréhende le principe du jeu. Donc il y a cette phase là. Bon, après je vous passe le détail, on peut utiliser des objets qui vont avoir des effets particuliers.
Bah nous on les a quasiment pas utilisés, hein, les objets dans notre partie, c'était assez limité. Hein.
Ah ouais.
Mmh. Ouais, de la chance. Mais ouais, faut vraiment insister sur le côté je dois être majoritaire par rapport à mes deux voisins. Mmh,
c'est ça. Mmh.
Donc du coup en fait mes coéquipiers vont me gêner. Donc ça c'est vraiment super intéressant parce qu'ensuite bah enfin tu voulais peut-être y venir mais il y a une phase de reroll.
Ouais,
donc où chacun peut relancer des dés et là en fait ce qui est super intéressant c'est que tu réfléchis à la fois pour toi-même mais aussi pour ne pas gêner tes deux voisins. Exactement. Donc t'es vraiment sur un choix très cornélien quoi.
Du coup c'est effectivement cette troisième phase là, c'est une phase où on va pouvoir ou pas bénéficier de relance, hein. Là aussi je vous passe les détails des conditions. Et effectivement dans cette phase là il va
falloir juste quand même préciser que le nombre de fois où tu vas pouvoir relancer tes dés dépend du nombre de cases dont tu souhaites te déplacer. Et alors là on aborde peut-être un petit point stratégique, mais nous c'est vrai qu'on a souvent essayé d'aller le plus vite possible. Et donc on a limité au maximum le nombre de fois où on avait le droit de relancer nos dés. Et je me suis demandé un moment vers la fin de la partie, est-ce que des fois on n'a pas tendance à vouloir rester sur place pour limiter le risque et et en fait il faut vachement jouer sur ce côté-là, tout en sachant que derrière on a la lave qui nous arrive dessus quoi.
Ouais. Bah en fait oui, bah après là c'est on rentre effectivement dans de la stratégie, mais tu peux effectivement un joueur qui est loin devant en gros il a pas d'intérêt à arriver spécialement devant les autres. Il y a même des choses qui font plutôt qu'ils ont tendance
à il est obligé de ralentir sa marche en fait.
Ouais, et donc là lui bah en gros il peut attendre les autres, donc il peut se permettre de faire des trucs sur lesquels il gênera pas les autres. Bon bref. Donc cette phase de relance, ensuite on peut à nouveau rediscuter sous les mêmes conditions, hein, c'est-à-dire que sans reparler de ses valeurs etc, ça permet simplement de rejouer sur les équipements spéciaux pour essayer de se sortir d'une mauvaise relance par exemple. Et donc c'est là qu'ensuite on révèle donc cinquième phase, on révèle l'ensemble des dés et on va comparer nos valeurs avec nos voisins. C'est-à-dire que moi je veux aller sur la case avec les 5 et les 3, je vais comparer avec mon voisin de gauche et mon voisin de droite si je suis bien le plus fort dans cette condition. Si c'est le cas, j'avance. Si je suis plus fort, strictement, j'avance. Si ce n'est pas le cas, non seulement je n'avance pas et je vais prendre des dégâts. Et au bout d'un certain nombre de dégâts, selon un système de checkpoint, on va dire, ben, on perd des capacités. Et même si je peux bouger, c'est-à-dire même si je bats mon adversaire, il se peut que je prenne quand même des dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, il faut gérer un niveau de différence avec le plus fort de mes voisins qui dépasse un certain seuil. Alors là, ça dépend du niveau de difficulté qu'on a placé. Mais je crois qu'au niveau le plus simple, par exemple, il faut dépasser d'au moins 4 ou 5 la valeur de son voisin pour ne pas avoir du tout de dégâts. Donc voilà. Et ensuite, bah, évidemment, la lave progresse d'une case, voire de deux si on a dépassé une certaine position sur le parcours. Donc ça c'était pour l'explication des règles du jeu, hein. J'ai passé quelques détails, mais bon, encore qu'on en a évoqué certains. Le jeu, je sais pas, là comme ça, typiquement toi tu y as pas joué, mais Nofix, ça te ferait penser à quoi, comme tout que tu connaîtrais?
Bah c'est un mélange de plusieurs trucs, puisque il y a le côté communication
limité,
le côté coopératif, le côté un peu court, j'ai l'impression, puisqu'il faut monter descendre rapidement. Mmh. Enfin, il y a plusieurs choses. Moi, quand vous parliez du côté communication un peu coupé ou tronqué, j'ai un peu pensé à The Game aussi, où en fait tu peux donner des informations du type ne te mets pas sur cette pile là, mais tu peux pas te donner les valeurs que t'as en main ou ce genre de choses. Mais non, ça me fait pas penser à grand chose d'évident là. J'ai pas une référence évidente qui me vient à l'esprit.
Ouais. Alors c'est vrai qu'on a évoqué les chevets de la table ronde, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui vient assez vite, parce que il y a le côté coop. Et le côté
communication bridée,
où t'as pas le droit de parler sur les valeurs, t'es censé faire du roleplay dans le chevalier de la table ronde.
Après, il y a le traître en plus dans le chevalier de la table ronde.
Voilà, ouais, bien sûr.
Donc, c'est pas un jeu coop.
Bah, potentiellement pas, mais tu peux aussi jouer sans. Hein,
Ouais, moi, je joue jamais avec.
Ouais. Ensuite, alors, moi, je le rapproche de Pandemic, qui est un classique du coop aujourd'hui, pour son côté calculatoire. Il y a quand même, il y a vraiment de l'optimisation à avoir dans Fuji. Et ça peut devenir parfois calculatoire, même si on n'a pas les valeurs finalement, parce que pour le coup, dans Pandémie, on a quelque chose d'assez ouvert, on a à peu près toutes les informations, on peut jouer vraiment beaucoup sur les probabilités, etc. Dans Fuji, on peut aussi avoir ces moments comme ça d'analyse assez longue d'une manche, Et d'ailleurs, c'est, je pense que c'est un reproche que tu lui fais, toi, Père Castor, à ce jeu.
Ouais, je l'ai trouvé que c'était un petit peu fastidieux, la phase où chacun doit compter ses dés, comparer, tiens, est-ce que je suis majoritaire? Non, quelle est ma différence? Et du coup, je prends tant et tant de points de...
Toi, tu parles même de la phase de résolution. Moi, je parle même avant, au moment où on discute déjà et qu'il faut essayer d'analyser sans avoir justement les vraies valeurs. Et qu'il faut tenter de se comprendre, de faire des choix par rapport à ça. Il y a un petit côté
calculatoire. En fait, il faut... Des fois, t'as tendance à vouloir être un petit peu fourbe pour glisser une information sans vraiment la donner, tu vois. Donc, c'est... je sais pas, c'est un peu dérangeant.
Après, par rapport à ce que vous disiez des règles, j'ai l'impression que c'est quand même un coop où il n'y a pas trop d'effet leader comme il peut y avoir sur un pandémie, par exemple.
Non, ouais.
C'est pas une personne qui peut dire, driver justement cette réflexion-là, d'optimisation des coûts, etc.
Non, tu fais bien effectivement d'en parler parce que justement, par rapport à pandémie qui est très critiqué pour son aspect, effet leader, bah là, on gomme beaucoup l'effet leader. Je dis pas qu'il y en a pas du tout, il y a toujours
un peu. Tu peux quand même en avoir au moment où tu discutes sur la case que tu souhaites atteindre.
Oui, parce que tu peux y avoir un joueur qui a entre guillemets une meilleure analyse que les autres de la situation. Il y a un côté déduction en fait, hein, c'est-à-dire que tu peux comprendre. En réalité, je sais pas si je parle de ça, je vais peut-être gâcher un peu, mais on n'est pas obligé de jouer avec ça. Tu peux vraiment jouer sur genre tu te mets sur toutes les cases et tu dis là vous voyez là je suis pas bien, là je suis bien, là je suis pas bien, là je suis moyen. Et en fait, en analysant comme ça toutes les combinaisons, bah, tu peux faire des rapprochements et te dire, ok, tu peux en arriver des fois à des conclusions, ok, il doit avoir un 5 jaune, par exemple, il doit avoir, toi, tu peux vraiment déduire des choses, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'effet leader, il va être gommé, parce qu'au final, t'es seul face à tes dés pour choisir lesquels tu vas relancer.
Ouais, exactement.
Et il y a que toi qui peux faire le bon ou généralement les mauvais choix.
Ouais. Et c'est important de bien expliquer aux gens, d'ailleurs, qu'au moment de cette phase de relance, s'ils ont le droit à plusieurs relances, ils n'ont pas le droit de discuter entre les deux relances parce que tu peux te retrouver vraiment au moment où t'as fait ta première relance à te retrouver devant un nouveau choix.
Et une situation pire qu'initiale.
Ouais, pire qu'initiale que tu peux ne pas voir. Que tu peux ne pas voir parce que du coup, t'es en train de regarder avec ton voisin de gauche, par exemple, et du coup, tu t'en rends pas compte, mais t'es en train de massacrer ton voisin de droite. Et c'est hyper important que quand il y a plusieurs relances, surtout qu'il n'y ait pas de discussion entre les deux.
Ça nous est souvent arrivé, effectivement, où t'arrives à améliorer une situation par rapport à un autre joueur. Par exemple, avec un autre joueur, ben, il faut avoir des dés d'une certaine couleur. Donc t'arrives à t'en, ouais, plutôt d'une certaine valeur, t'arrives à t'en éloigner, mais en contrepartie tu dégrades ta situation par rapport à l'autre joueur sans qu'il ait vraiment fait gaffe.
Ouais. Ou des effets, par exemple il y a des effets sur les dés où tu peux retourner tes dés d'une face à une autre, par exemple ce genre de choses. Et en fait tu peux, c'est assez marrant parce que du coup cette contrainte avec les couleurs et les valeurs, tu peux te rendre compte que tu vas changer la valeur par exemple, mais tu vas te retrouver sur une couleur qui est imposée. C'est-à-dire par exemple tu veux le mettre sur un 3 pour une raison X ou Y. Mais attention, la couleur, elle va t'imposer sur ce dé-là. Et du coup, tu peux te retrouver à dire, mais merde, en fait, 3 verts, trois bleus, ça va pas. C'est 3, ça pouvait être rose et jaune, ça allait bien, mais en fait, 3 bleus, ça va pas. Sauf que c'est ce dé-là qu'il faut que tu tournes. Donc, c'est assez, ça rentre aussi dans le côté un peu calculatoire. Il faut faire attention à tous ces éléments-là. En tout cas, si on veut rentrer à un niveau de complexité, on peut aller à un niveau important dans le jeu, quoi.
Ah, parce qu'il y a un petit côté stop ou encore avec le nombre de relances que tu peux faire ou pas.
Ouais, bon, c'est un peu limité, mais bon, oui, effectivement, tu peux. Moi, j'ai trouvé ce côté déduction logique avec cette espèce de parcours, de positionnement, tout ça. Il y avait parfois un côté un peu sudoku, pas dans la position, mais dans le fait de devoir analyser que si lui il est comme ci, lui il est comme ça, machin, ça donne en croisement, ça donne une conséquence qui est celle-ci, quoi. Et ça me donne un côté casse-tête en fait au jeu.
En fait, c'est un peu la théorie des ensembles en mathématiques.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, ça se rapproche un peu de ça. Je sais pas s'il y a une inspiration là-dedans, mais bon. Et puis, évidemment, moi, j'ai noté dans les rapprochements Anabi dans le côté où t'es face à. Alors, c'est pas que tu connais pas tes dés, mais là, c'est que t'es face à ton propre choix avec une inconnue. Mais là, c'est l'inconnu des deux voisins, quoi. Le côté communication limitée et coop et inconnu dans Anabi c'était carte. Là c'est les dés de tes deux voisins qui vont être en confrontation avec les tiens.
Je trouve ça plus pertinent de le comparer à Anabi ou à The Game comme t'avais dit Benoît Fix plutôt qu'à Pandémie parce que Pandémie ouais c'est pour le coup ça reste les premiers dans la famille des premiers jeux coop genre Ghost Stories, Le Seigneur des Anneaux tout ça. où effectivement on avait de l'information complète, il y avait des effets leaders et tout, et ensuite t'as eu cette évolution de la communication. Et là pour le coup Fuji se rapproche plus de ça, mais je trouve qu'il transcende en fait la communication en allant, en allant beaucoup plus loin avec cette histoire de dés. Pour le coup je trouve qu'on n'a jamais vu un truc comme ça.
Ouais non, ça me paraît assez. Après je compare pas à Pandémie pour dire il est proche. Hein. Je dis juste c'est un point, pour moi c'est un point de repère pour beaucoup de joueurs. Et donc dire voilà par rapport à Pandémie c'est tu vois il y a le côté calculatoire qu'on retrouve un peu. Sans l'effet leader.
Peut-être le côté prise de risque que t'as dans Pandémie où tu vois la menace arriver et du coup tu vas essayer d'avancer d'autant plus vite sur les cases parce que t'as la lave ou la menace qui est en train d'arriver. Et peut-être que dans Pandémie t'aurais un peu la même chose. Tu vois que les éclosions commencent à pointer le bout de leur nez et du coup tu vas peut-être faire des mouvements plus risqués.
L'effet course en fait. Même si l'effet course est en fait littéral dans Fuji en fait. Parce que dans Pandémie, il y a quand même un effet course. C'est-à-dire, faut gagner avant qu'il y ait X explosion.
Là, c'est un peu pareil. Faut pas que la lave te rattrape, quoi.
Donc voilà un petit peu pour positionner le jeu dans le paysage ludique. En termes de, pour rentrer un peu dans la critique. Moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Franchement, je trouve vraiment cette originalité, comme tu le dis, professeur, quelque chose on a du mal à le rapprocher de choses. En tout cas, c'est au moins un mélange innovant. Après, je lui reproche quand même pas mal de choses. C'est le côté aléatoire de la répartition des cartes. On peut énormément jouer sur la difficulté de la partie. C'est-à-dire que, il y a des combinaisons, en fait, des conditions qui sont très proches les unes des autres. Et, forcément, quand c'est...
Tu vas te télescoper, quoi.
Ouais, quand ces conditions proches les unes des autres sont proches, pas géométriquement, mais géographiquement, sur la table les unes des autres, en gros, les joueurs, ils vont avoir tendance à être assez proches les uns des autres. Donc du coup, ça veut dire que on va se retrouver à devoir comparer des trucs similaires avec nos voisins. Donc forcément, il y en a un qui va être moins fort que l'autre. Il y a pas de conditions identiques. Hein. Ça, c'est quand même important de le dire, mais il y a des choses proches.
Ouais. À un moment dans notre partie, on s'est retrouvé dans une situation où ma case partageait une valeur faciale de dés avec celle d'un autre joueur, et la couleur partageait la couleur avec celle encore d'un autre joueur. Tu vois. Donc là, on était vraiment dans le trio mortel. Hein.
Alors ça, on peut quand même le voir avec quelques parties, avec 2-3 parties, tu t'en rends très vite compte. Hein. Même d'ailleurs en le sachant, du coup, tu peux t'en rendre compte même à la première partie. Du coup, moi, ça m'est arrivé. J'ai fait une partie hier où j'ai ajouté une carte. Tu vois, il y en avait 3 qui étaient à la suite les unes des autres, qui étaient vraiment très similaires. J'en ai viré une, je l'ai mise ailleurs parce que je me suis dit, là, c'est indécent, quoi. Tu vois. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que t'as plusieurs choses pour régler le niveau de difficulté. T'as les cartes avec en fonction de la différence que t'as avec tes voisins, t'as plus ou moins de dégâts. Ça, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 du jeu, très précisément comme ça. T'as un système pour ajouter un peu de difficulté sur tout ce que j'ai pas dit, mais quand on arrive, enfin si j'en ai parlé vite fait, quand on arrive sur le checkpoint, tu fais une double lave, donc la lave avance plus vite. Tu peux renforcer ce côté-là.
C'est l'éclosion, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. donc t'as ces deux trucs-là pour gérer la difficulté. Mais en fait, il y a un truc que tu maîtrises mal, qui est la répartition des cartes. Tu peux vraiment beaucoup jouer sur la difficulté du jeu. Et ça, c'est un peu dommage parce que pour le coup, j'aurais peut-être apprécié qu'ils fassent des scénarios qui auraient peut-être été chiants à mettre en place. Et qui du coup aurait été bien drivé en termes de niveau de difficulté. Tu aurais vraiment dit, c'est telle carte qui va là.
Alors moi, nous, on avait
faire des types, par exemple, je sais pas, faire des catégories de cartes, par exemple. Faire la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3. Et ben,
et tu crées des sections dans ton chemin, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Et que t'es pas que des catégories 4 qui soient trop similaires dans le même tronçon.
Par exemple,
quoi.
Ce genre de truc, quoi.
Alors après, nous, on a eu un moment un équipement. Alors je sais pas en combien d'exemplaires il est. C'était les jumelles qui permet d'inverser 2 cartes.
Ouais.
Tu vois, donc ça permet de résoudre un peu le problème que t'as eu, mais dans le cadre de la mécanique du jeu.
C'est ça, dans la mécanique du jeu. Ouais. Donc, voilà, ça c'est une petite critique pour commencer. Au niveau de l'ergonomie du jeu, on va dire que ça fait le job, quoi. Mais en fait, en termes de matériel, c'est que des cartes. C'est pas des tuiles, quoi. Et du coup, tu vas quand même les manipuler pour les retourner, machin. C'est des cartes assez fines. Là, on se dit, ça aurait été quand même vachement mieux fait avec des tuiles. Bien sûr, le jeu n'aurait pas été au même prix. Voilà. Mais sur ce type de jeu, je pense que ça aurait pu valoir le coup. Ouais. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, en termes de ressenti de. Il y a des gens que ça gêne pas, hein, voilà. Je sais pas outré plus que ça, mais
Moi, j'avoue que ça me gêne pas plus que ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, Après, est-ce que les cartes c'est pas plus simple à mélanger aussi, parce que vu que t'as une mise en place aléatoire, les tuiles c'est peut-être un peu relou, je sais pas.
Oui, c'est sûr. Ah oui, c'est certain que c'est plus facile à mélanger. Oui, ça c'est sûr.
Mais je pense que oui, c'est plus une contrainte tarifaire et éditoriale qu'autre chose, quoi.
Ouais, je pense aussi. Voilà. Après, bon, le jeu prend pas mal de place, faire de rien, pour un jeu qui est pas un jeu costaud. Mais comme du coup cette mise en place là avec les patterns, ça prend quand même pas mal de place. Et puis, je l'ai dit, les cartes sont pas d'une qualité folle. Après le reste, je trouve ça plutôt correct. Ouais, je sais pas si vous avez d'autres éléments à citer.
Je trouve que les paravents, ils tiennent un peu mal debout. Alors, je sais pas si c'est parce que les tiens étaient particulièrement usés, mais.
Non, pas plus que ça. Je sais pas, le jeu, il a fait une dizaine de parties, quoi. Tu vois. Moi, j'en ai fait 7-8, et puis il y a quelques parties qui se sont jouées là. Non, c'est fin, en fait. C'est ouais, fin, ont... donc, du coup,
ça
c'est...
ça aurait été pas mal qu'ils aient une petite encoche un peu comme ceux de Keyflower, tu vois, pour que ça reste ouais. Enfin, ça fait vraiment une alcôve, quoi, que
bah, si ça avait été cartonné, quoi.
Ouais,
surtout que du coup c'est quand même central dans le jeu, quoi.
Ceux de Keyflower, ils sont fins, tu vois, mais ils ont une petite attache, une petite encoche qui permet de leur donner une structure un petit peu robuste. Ouais, bon, après c'est un détail, quoi, mais bon.
Non, mais bon, c'est des détails éditoriaux, enfin parce que bon, tout ça c'est Feuerland à la base, hein, quand même, hein. Super Meeple, il récupère le jeu tel quel, enfin j'en doute pas trop. Feuerland, c'est quand même un éditeur qui est installé depuis pas mal de temps. Et puis en fait, ils ont fait des jeux genre quand même Terra Mystica. Donc tu sais pas, niveau de qualité de matos, c'est pas le même genre, quoi. Bon, après évidemment, c'est pas le même tarif tout ça, mais bon, c'est un peu. Moi, je trouvais ça quand même globalement quand même assez décevant en termes de matos. Après, ils ont fait appel à un illustrateur qui peut-être coûte cher, j'en sais rien. Peut-être que ça a rentré aussi dans la balance. Voilà, les illustrations, moi je les trouve vraiment chouettes.
Ouais, la boîte aussi est bien avec le Mont Fuji là que tu vois bien.
Ouais, il a vraiment sa patte illustrateur pour le coup, Santiago Iverson.
Ah, pour le coup, ouais, j'y ai pas joué, mais j'ai vu un peu le matos. C'est ouais, c'est bah, moi j'aime bien le style aussi, ouais.
Ouais.
Ça change un peu de ce qu'on voit habituellement.
Ouais, grave.
Et alors moi j'ai juste, il y a un truc qui moi m'a gêné, c'est les. En fait, on nous dit on est des aventuriers qui sont sur le Mont Fuji machin. Et en fait, on a des mecs en costard. Alors Paul Garin m'a expliqué que dans les années 20, les aventuriers, explorateurs, archéologues étaient habillés en costard. Bon, j'ai un problème avec ça, quoi. Je suis pas le seul pour le coup, mais est-ce que c'est un problème de connaissance historique?
Ah oui, il y avait pas d'autres habits. Ça existait pas, les jeans et les shorts à l'époque.
Bah ouais.
Bon, donc, même encore aujourd'hui, quand tu vas en Asie, je sais pas, au Japon j'étais jamais, mais en Chine tu vois souvent les gens qui ont la cinquantaine, soixantaine, habillés avec des simili costards, quoi. Donc,
D'accord.
Est-ce que ça reste dans l'esprit de l'époque?
Ouais, peut-être.
D'ailleurs, ça me fait penser à un point, mais dans le jeu, on a tous à la fois une carte de spécialiste qui nous résume un peu notre capacité spéciale, un peu comme dans tous les jeux coopératifs. Mais on a aussi une carte avec simplement une illustration de notre personnage qui correspond à notre couleur et qui ne sert juste à rien, en fait.
Bah, qui sert à
rappeler ta couleur.
Bah non, parce qu'il y a ton paravent.
Ouais,
et tes dés qui sont de ta couleur.
C'est
en fait, j'ai l'impression que c'est juste, ouais, pour le côté un peu roleplay, pour l'idée d'incarner un personnage, mais ouais, au final, tu vois, ça aurait pu faire 4 objets en plus, quoi. Tu vois, c'est en termes éditorial, je trouve ça intéressant comme choix. Je dis pas que c'est mauvais ou bon, mais
enfin, parlons dans des objets. Mais est-ce que toi, tu les as vraiment utilisés dans ta partie ou dans tes parties?
Ouais, mais nous, on a galéré.
Ouais. Ouais, non, mais j'ai utilisé à chaque fois les objets. Mais ouais, du coup, pour parler du thème, du coup, parce que enfin, ces personnages-là, ils sont peut-être là pour incarner quelque chose, mais le thème du jeu, on l'oublie super vite, quoi. Enfin, en fait, ok. Alors, il y a les. Parce que je vois un petit professeur qui fait la grimace. Ça passe pas au micro, ça.
T'as quand même un volcan, quoi, qui te poursuit, entre guillemets, quoi.
Et ben, il y a ce truc-là. Il y a juste ce truc-là, en fait. C'est-à-dire, t'as le volcan qui est en éruption, donc ça s'est matérialisé par les tuiles que tu retournes et qui crament le passage par lequel tu passes.
Mais si tu sais qu'il va exploser en commençant le jeu, pourquoi tu montes sur la montre?
C'est un autre problème. Alors c'est vrai, je ne l'avais pas noté.
Mais non, parce que tu ne joues pas à la montée. C'est-à-dire que tu te retrouves directement in medias res.
D'accord. Ils sont montés.
T'es direct dans la merde.
Ouais.
Mais en fait, je trouve que ça marche parce que quand tu joues, t'as le sentiment de te dire venez, on se barre, on va se faire cramer les fesses, tu vois.
Alors ça je suis d'accord, ça c'est l'élément thématique qui est maintenu, qui explique le pourquoi du comment. En revanche, pourquoi on se gêne, tu vois, pourquoi on se gêne et pourquoi mécaniquement pourquoi on peut pas parler clairement, pourquoi
imagine, t'es en train de courir, t'es essoufflé, t'es concentré sur ta fuite et tu penses, t'as pas forcément tous tes neurones qui sont correctement connectés pour donner les informations les plus pertinentes, quoi.
Ouais. Et puis tu peux te pousser sans faire exprès, te marcher dessus, etc. Moi, ça marche, la thématique, je trouve.
Ouais. Après, pourquoi ce serait le mec qui a le plus de dés, je ne sais pas. Enfin, les dés, du coup, là-dedans, ils ont plus aucun sens mécanique. Thématique, je veux dire.
Non.
Voilà.
Tu relances, machin. Il y a quand même un moment où on est quand même devant un jeu avec
toute la partie D, elle est pas rattachée en fait.
Oui,
et toute l'originalité, elle tient quand même sur le côté mécanique du jeu. Du coup, c'est quand même ça que t'as tendance à mettre en avant. Et thématiquement, bon bah on voit bien que ça, vous arrivez à le faire tenir. On est d'accord. Bon, tiens, avec des ficelles et du scotch, quoi. C'est le truc quand même. C'est.
Ouais, après, enfin. Il y a quand même beaucoup de jeux où c'est le cas.
Non, mais bien sûr.
Hier, j'ai fait une partie de Coimbra, le thème, il y en a pas du tout, quoi. C'est un jeu pur mécanique.
Ouais, voilà, je trouve que par rapport à tout, genre, tous les jeux à l'allemande ou tous les jeux de gestion, Fuji, il a beaucoup plus de thématiques.
C'est un jeu allemand. Et pour le coup, peut-être qu'il est, il est peut-être moins mauvais que les autres.
Il est au-dessus de la moyenne, largement, je pense.
Ouais. Voilà, bon, ça, c'était pour la partie thématique. Bon, niveau interaction dans le jeu, je pense que vous aurez compris que c'est quand même ultra présent. On peut pas du tout, enfin, si vous jouez en tout cas sans tenter de discuter avec cette communication limitée, sans faire ça avec vos voisins, c'est sûr, vous pouvez pas gagner.
Voilà. La mécanique rend l'interaction quasi obligatoire.
C'est ça, ouais. C'est vraiment, et tu le soulignes bien, en fait, c'est vraiment cette mécanique-là, elle impose la communication dans le jeu. Tu peux rien faire sans ça, quoi.
En fait, c'est plutôt un jeu où tu tires des conclusions, parce que chaque fois, tu vas t'excuser à la fin parce que tu viens anéantir le tirage d'un autre joueur. Hein.
Grave,
et t'es obligé de te justifier en disant « Ouais, non, mais mon but, c'était vraiment de faire ça, mais j'ai pas eu de bol sur mon dernier reroll 2D. Ouais. » Enfin, ouais. T'as beaucoup de communication à ce niveau-là.
Il y a moyen de s'engueuler, en fait, hein, parce que tu fais « Putain, mais t'as pas vu que j'étais là, moi aussi, avec cette valeur-là, machin. On a discuté juste avant, que t'as foutu. » Il y a une vraie interaction qui est chouette dans le jeu.
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une alarme, c'est un bébé qui pleure.
Tout va bien, nous sommes, je le rappelle, toujours au week-end pour qu'ils jouent. Il y a aussi des bébés qui jouent, ou pas, enfin ils jouent pas, mais voilà.
S'ils jouent, ils ont pas l'air de s'amuser.
Mais en fait, sur la fin, dès qu'on arrivait près du village, vers l'arrivée, je trouvais qu'il y avait un petit côté répétitif en fait. Je sais pas si t'as eu ce sentiment-là aussi. Le petit côté répétitif, en fait, puisque...
Tu trouves que c'est, quelque part, c'est un peu long, quoi?
Ouais. Après, je sais pas si on avait un parcours qui était pas particulièrement long ou...
Non, les parcours, ils font tous à peu près la même taille, hein. C'est pas la question de ça. Après, tu peux y rester plus ou moins longtemps. Même si la lab progresse globalement, je pense, d'un parcours à l'autre, de la même façon. Effectivement, il y a un petit côté répétitif parce que finalement, d'un tour sur l'autre, tu fais la même chose, hein. Tu recommences la même chose avec juste des conditions différentes, de position. Après, tu vas avoir des choses qui vont s'imposer à toi différentes. Typiquement, au bout d'un moment, tu vas te blesser, tu vas avoir un handicap. Tu vas faire des choix différents, mais globalement, oui, d'un tour à l'autre, les tours se ressemblent, hein. C'est vrai.
Ah, parce que les blessures que tu vas prendre au fur et à mesure vont te limiter dans tes actions. T'as notamment une blessure, par exemple, qui va t'interdire les rerolls. Et ça, c'est extrêmement punitif, je trouve.
Mais tu choisis, hein. Tu choisis la blessure que tu prends.
Ouais, bien sûr. Alors, généralement, t'as tendance, nous, on a éliminé les équipements en tout premier. Non, la capacité de notre personnage.
C'est pour ça que t'as pas joué l'équipement, j'allais le dire.
Non, mais les équipements, ils nous servaient clairement à rien, quoi. Enfin, à part celui qui nous a permis d'échanger deux cartes qui étaient libres, le reste, c'était vraiment, vraiment accessoire, c'était même pas un équipement pour moi, c'était
important,
juste des accessoires.
Il y en a qui sont forts, hein, je trouve. Mais je te rejoins pas mal sur le côté répétitif. J'ai joué que deux parties pour le moment, mais j'ai vraiment le sentiment que à long terme, c'est le reproche, un des deux reproches que je fais au jeu en tout cas, c'est vraiment j'ai peur que le jeu se renouvelle pas parce qu'il est pas assez émergent. Le seul potentiel d'émergence dans le jeu, ça va être le tirage des équipements. Ou l'aléatoire de la répartition des cartes, mais c'est pas ça qui va changer ton feeling de jeu, tu vois. Et je pense que ce qui change le plus ton feeling de jeu, c'est les équipements et les pouvoirs.
Les pouvoirs des personnages.
Des personnages, voilà, la capacité spéciale de ton personnage.
Il y en a pas 40 dans le jeu.
Ouais, il y en a genre 6, je crois.
Je crois que c'est 6 ou 7.
Ouais, puis pareil, les équipements, ils ont des effets assez basiques en général, quoi.
Ce qui aurait été intéressant, c'est de pouvoir capitaliser, en fait, entre deux tours. Hein. Parce que si volontairement, tu prends pas de risque pour ne pas trop avancer, tu vois, on pourrait dire, ça aurait été intéressant. J'extrapole, ouais. Là, mais tu vois, de pouvoir conserver un dé, tu vois, d'un tour sur l'autre.
Mais t'as un perso qui a un effet un peu comme ça, en fait. S'il ne relance pas, il prend une tablette de chocolat. Et
oui.
Il peut la refiler.
Mais pareil, ouais. Tu as un peu ça dans la mesure où des fois, t'as des chemins où tu perds du temps, mais tu reçois un objet. Après, si t'as pas joué avec les objets, voilà. Mais...
Non, mais si l'objet te sert à rien...
Mais ça, c'est ton sentiment à toi. Hein.
Ouais. Mais oui, voilà, tu peux quand même un peu capitaliser dans le sens où tu dis je perds du temps, mais en contrepartie, je reçois un objet. Bon, après, voilà, c'est un léger choix à faire, quoi.
Et manque de bol, tu t'es déjà blessé et tu peux pas utiliser l'objet que tu vas ramasser.
Ah oui, bah, ça, c'est.
Bon, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter des choses un peu sur le feeling, t'en fais ça.
Ouais, moi, j'ai un autre reproche que je lui ferais. En fait, de base, je suis juste pour dire, je suis très très fan du jeu. Hein. J'ai pas, ça a été un, on en avait parlé au débrief de Essen. Ça a été un de mes coups de cœur de Essen.
En fait, c'est comme ça que tu me l'as présenté, et au fur et à mesure de l'explication d'Eric, t'as commencé à le défoncer sur tel ou tel point.
C'est vrai.
Ouais, c'est comme ça. C'est le ressenti que j'ai eu hier soir.
Mais l'autre truc que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il est trop facile à trois joueurs.
Je me pose la question aussi, mais j'ai fait, je crois que deux parties à trois, et du coup, je peux pas trop dire.
Pareil, j'ai joué qu'une fois à trois, une fois à quatre, et vraiment à trois, ça a été trop facile. C'était avec toi, Cyrus. Ouais, en plus, on a vraiment roulé sur le jeu, alors qu'on était dans le même mode de difficulté que quand on avait joué à Essen à quatre joueurs, quoi.
Un jeu coop trop facile, c'est jamais très intéressant, du coup.
Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Donc, je pense que vraiment, le jeu est plus fait pour quatre ou cinq joueurs. On peut jouer à cinq.
C'est quatre.
C'est quatre. Ouais, il est plus fait pour quatre. Il est plus designé pour quatre joueurs, je pense.
Bah, j'allais venir plus tard, mais effectivement, bon, je referai le détail sur les configurations.
Ouais.
Juste donc où les joueurs à qui s'adresse ce genre de jeu, pour moi c'est quand même un jeu exigeant. Donc c'est un jeu dans un format qui pourrait paraître assez familial, on va dire familial plus. Mais au final, on va dire que ça rentre dans la gamme du familial plus. Mais c'est quand même, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un petit côté calculatoire, il y a de la déduction, il y a tout ça. Ça fait beaucoup de paramètres et effectivement les tours peuvent être un peu longs parce qu'il faut discuter avec ses voisins pour bien être sûr qu'on passe ou pas. Alors après c'est sûr si tu joues par-dessus la jambe, bah là le niveau de difficulté il va augmenter quoi. Parce que si tu oublies une partie des paramètres, oui ça va devenir difficile. Et du coup si on veut jouer comme ça, bah il faut peut-être jouer sur des niveaux faciles. Mais moi, je recommande plutôt le côté challenge et plutôt à des joueurs plutôt connaisseurs et amateurs de genre de trucs. Quoi. Sur les configurations, effectivement, je te rejoins complètement. Pour moi, c'est 4 joueurs la configuration optimale. Donc à 2, ouais, il y a deux variantes. T'as une variante qui est dans tous les cas, en fait, tu as un espèce de joueur fantôme. Il y en a une où vraiment le joueur est sur le plateau. Et tu vas vraiment jouer son déplacement. C'est vraiment comme si il y avait un troisième joueur à la table. Sauf que il y a deux paravents, et en fait chaque joueur a 3 dés de son côté des paravents. Voilà. En gros, tu joues tes 5 ou 6 dés et l'autre joueur, enfin tu es plus 3 dés du joueur neutre et l'autre joueur joue ses dés plus 3 dés du joueur neutre. Du coup, tu décides ensemble si tu fais des relances. Et après tout le reste c'est pareil, t'as un personnage, t'as des effets, etc., etc. Là, du coup, ça devient ultra calculatoire, c'est vraiment déduction. Il faut en même temps que tu déduises que l'autre il a derrière son paravent en fonction de ce qu'il t'a dit, etc. Et du coup plus long, plus complexe, après plus exigeant, plus de maîtrise, etc. Et t'as l'autre variante qui est beaucoup plus random, en revanche plus simple à mettre en place, etc. T'as un paravent de côté, tu vas lancer 6 dés derrière ce paravent là. Et en gros, ça va être une contrainte supplémentaire. Ah non, t'en lances 3 derrière le paravent et 3 devant, en fait. Donc tout le monde a connaissance des 3 mêmes dés. Et il y a 3 dés qui sont, entre guillemets, random de l'autre côté du paravent. Voilà. Et là, il va pas être, je crois qu'il est pas matérialisé sur le plateau, l'autre joueur, pour le coup. Mais que il te gêne quand même. Quoi.
Ça a l'air, toi. Ça a l'air intéressant dit comme ça quand même.
Bah moi je préfère la variante qui est plus random pour le coup, tu vois.
Ouais, ça a l'air
parce
cool.
Que l'autre en gros tu joues un troisième joueur, il t'embête aussi sur son placement, il faut pas que tu l'embêtes sur son placement, il peut mourir tout ça. Alors que l'autre c'est vraiment un espèce de ghost, il te gêne toi mais tu vois tu peux pas le gêner en gros quoi, tu vois. J'ai quand même trouvé moi la variante random plus intéressante puisque finalement un peu plus fun, un peu plus rapide, plus direct et un peu moins prise de tête quoi. Mais ça, pour moi, ça représente. C'est pas vraiment représentatif du jeu. Quoi. C'est ok, tu vas retrouver le feeling quand même parce que tu fais ton parcours, t'as la lave, machin, tout ça. Mais c'est vraiment pas l'essence du jeu. Elle est pas bien représentée là-dessus. À 3, comme tu disais, j'ai des doutes sur le fait que. Enfin, comme tu disais, Pierre-Fesseur, j'ai des doutes sur le fait que ce soit peut-être un peu trop facile. Mais bon, ça, je veux dire, ça passe. Voilà, et pour moi, c'est vraiment un 4 que je prends plus de dimensions.
Et c'est quoi qui fait que c'est plus facile à 3? Parce que finalement, t'as un peu moins de contraintes par rapport aux cases sur lesquelles tu vas, ou?
Nantes, on a globalement...
Parce que finalement, t'as toujours deux voisins aussi auxquels tu dois faire gaffe.
Ouais, ta contrainte, en fait, elle change pas, mais c'est surtout que... En fait, t'as plus de paramètres à gérer, c'est-à-dire que moi, je dois faire gaffe à mon voisin, qui lui doit faire gaffe à notre deuxième voisin.
Ah oui, qui est commun, en fait. T'as un voisin en commun, c'est ça qui rend le truc un peu
plus. À trois joueurs, voilà, t'as un voisin en commun. Alors qu'à quatre joueurs, t'as un autre voisin, que t'as pas en commun.
T'as une espèce de truc qui tourne, en fait.
Ouais, c'est ça.
Du coup, ton voisin, il doit pas faire attention au même voisin.
Au même
voisin
que toi, ouais. Alors que là, t'en as un où tu fais attention en commun, donc tu, je vois le truc,
quoi. Ça rajoute une petite dimension au truc, quoi. Et oui, parce que du coup, tu te gênes pas avec ton, enfin, la personne qui est en diagonale. Mais au final, il y a une espèce de truc en double bande. Qui est un peu, qui est pas facile, toi, à dire ça comme ça, mais
Et du coup, à quatre joueurs, deux joueurs qui sont pas voisins peuvent aller sur la même case, du coup.
Okay. Ouais.
Parce qu'ils se gênent pas parce qu'ils sont pas voisins. Donc, okay. Ouais, peut-être que... C'est pour ça, vraiment là, c'est du feeling parce qu'on a fait une partie à quatre, une partie à trois et qu'on a fait le sentiment qu'à trois, c'était plus facile, mais... Voilà, c'est surtout le sentiment d'avoir moins de choses à analyser à trois joueurs et que du coup on a moins de chances de faire d'erreurs. C'est un peu ça qu'on a ressenti en fait, je pense.
C'est parce qu'en fait tu as à trois, tu finalement t'as presque la possibilité d'avoir un effet leader parce que tu as les paramètres de tous tes voisins, tu vois. Alors qu'à quatre, il y en a un donc tu maîtrises pas vraiment. T'as pas vraiment la main sur le fait que tu vas le gêner ou pas, mais du coup tu sais pas si ce que tu vas demander à ton voisin va pas emmerder l'autre.
Ouais, je pense c'est ça.
Tu as une perte de communication avec l'éloignement. Tu as une perte d'information.
Ouais, je pense que ça peut jouer beaucoup.
Voilà. Donc du coup pour passer à la vie finale, vous aurez compris que moi j'aime beaucoup le jeu. Il est pas exempt de défauts. C'est vraiment pas un jeu exempt de défauts. On l'a redit. Vous en avez souligné pas forcément ceux que moi j'avais souligné le plus. Mais je pense que du coup c'est assez évident. Mais n'empêche que c'est un jeu qui apporte un son lot d'innovation, qui est intéressant, qui propose quelque chose de nouveau et rien que pour ça, moi je trouve ça vraiment chouette. Et pour moi, Wolfgang Warsch, The Mind et ça, alors j'ai pas joué à tous les jeux, mais bon, moi, vraiment très futé, tout ça, c'est pas trop mon truc. C'est Bricks.
Charlatan de Belcastle.
C'est un Roland Wright.
Charlatan de Belcastle, je trouve pas mal. Moi. J'aime bien. Ouais. Dans son style, mais là pour moi, je pense que c'est mon deuxième préféré après The Mind. Je sais pas du coup donc, votre avis à vous.
Bon alors moi mon avis va être mitigé puisque j'ai fait qu'une seule partie. Bon perso moi déjà je suis pas un gros fan de tout ce qui est jeu coopératif et encore plus quand t'as de la contrainte mécanique qui vient un petit peu brouiller la communication mais de manière on va dire un peu flou, tu vois, et pas clairement défini. Donc la partie était sympathique, c'était une expérience sympa, mais je pense pas y revenir pour une deuxième.
Et c'était répétitif aussi. Ouais. T'as trouvé un peu. Ouais. Ok.
Bah moi du coup, comme on l'avait dit à Essen, de toute façon, mais j'ai été très très agréablement surpris par le jeu, même si en fait vu que c'est du Wolfgang Warsch, je savais que ça allait me plaire. en vrai non, je trouve que même s'il a des problèmes. Comme je disais, les deux écueils que je reproche, c'est vraiment le fait qu'à trois joueurs, c'est peut-être trop facile. Et cette histoire de... peut-être, effectivement, c'est trop répétitif. Je sais pas, vu que j'ai joué que deux parties, mais effectivement, je me demande si c'est assez émergent pour proposer assez de rejouabilité dans les parties, quoi. Ouais. Mais malgré ça, même si ça, c'est pas bien, le jeu est excellent parce que il est assez innovant et il ressemble à rien de connu, à peu près, quoi. C'est-à-dire qu'au tout début, t'as posé la question à quoi ça ressemble. Franchement, je trouve que les exemples qu'on a donnés, ils sont pas très convaincants. Ils ressemblent à maximum à 30% au jeu, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, c'est très dur de trouver un jeu vraiment très, très similaire à Fuji, à l'heure actuelle, en tout cas. Donc, au pire, il ouvre une nouvelle porte. Et du coup, rien que pour ça, je suis content qu'il existe, quoi. C'est une bonne curiosité ludique, mais pour le coup, c'est une curiosité ludique qui marche. Parce qu'en général, les jeux un peu expérimentaux, comme ça marche pas trop bien. Je pense à Nyctophobia, là, récemment. Ouais, pour le coup, tu vois, ça, c'est expérimental, mais ça marche pas. Ouais. Ou pas mal de jeux de Friedman Friese qui sont un petit peu boiteux, ce genre de trucs, quoi. Là, pour le coup, ça marche vraiment bien et c'est vraiment un bon jeu qui fonctionne et qui tourne et que j'ai plaisir à jouer, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pour moi, c'est un super jeu, quoi.
Ok, merci. Voilà, je vais rappeler la fiche analytique. Fuji, un jeu de Wolfgang Warsch édité par Feuerland Spiele, localisé en français par Super Meeple, illustré par Weberson Santiago pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties de 30 minutes à 1 heure. Effectivement, on est à peu près dans ce timing là. Ça peut dépasser un petit peu l'heure si vraiment on discute beaucoup et qu'on joue à un niveau de difficulté élevé. C'est 29,90€ chez Philibert. Et voilà, qui conclut cette partie.
Eh ben merci Cyrus, on va laisser Père Castor aller jouer s'il a envie parce qu'il a pas joué à Shadow d'Amsterdam, ouais. Donc on va le saluer tout de suite. Ben merci Père Castor d'être venu, c'était un plaisir et puis à la prochaine.
Et merci de m'avoir fait une petite place au micro, merci. Et Shadows of Amsterdam, bah bonne revue on va dire.
Merci.
Ciao. Et ben on va passer donc à la suite de cette émission, je vais laisser parler Benefix un petit peu plus.
Ouais,
parler de Shadows of Amsterdam.
Eh bien oui, Shadows Amsterdam. Alors Shadows Amsterdam, c'est un jeu, on va commencer par la petite fiche signalétique, c'est un jeu de Mathieu Aubert qui est édité par Libellude, qui est illustré par M81 Studio et Libellude. En fait, M81 Studio, c'est un studio de graphistes qui est basé en Ukraine, qui avait déjà œuvré sur Mysterium notamment. C'est pour alors c'est conseillé de 2 à 8 joueurs, mais j'y reviendrai sur les configurations, à partir de 8 ans je crois, pour des parties de 30 minutes environ, et c'est disponible, si je ne me trompe pas, à 22,50€ chez Philibert.
Ça doit être ça.
Je crois que c'est ça. Donc ça c'est pour la petite fiche technique. Alors qu'est-ce que Shadows Amsterdam ? Si vous l'avez pas du tout vu passer, c'est un jeu qui a été nommé pour le Last Door jeu de l'année, il l'a pas gagné mais il a été nommé cette année. C'est un jeu de Mathieu Aubert, c'est son premier jeu. On l'a reçu à Cannes justement en interview, il nous a parlé un petit peu, c'est un peu un accident heureux parce que lui bosse chez Libellude mais plus sur la partie marketing, il s'occupait justement de la partie marketing des jeux,
ouais,
et voilà, il a voilà management marketing, il a soumis une idée un peu au coin café un jour et on lui a dit non mais c'est vachement bien, vas-y va jusqu'au bout, fais un proto. Et ça a donné Shadow d'Amsterdam.
Donc on mettra l'interview du coup,
ouais, lien, on mettra le lien de l'interview de Mathieu Aubert. Alors on sent qu'il travaille chez Libellude parce que clairement c'est un jeu dans la lignée de Dixit, Mysterium, c'est un jeu de communication avec des images. Il va falloir communiquer avec des images. C'est un jeu par équipe. On en discutait avec Pionfesseur tout à l'heure, mais effectivement dans la mise en place, dans la configuration, on va pouvoir le comparer à Codenames, c'est un jeu par équipe où il va y avoir asymétrique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une personne dans chaque équipe qui va avoir un rôle de transmettre des informations et le reste de l'équipe, pour chaque équipe, qui va justement essayer de comprendre ces informations et de jouer sur une carte.
Un émetteur et des récepteurs.
Tout à fait, un émetteur et des récepteurs. Alors comment ça va se passer dans Shadows Amsterdam? Le background un peu, c'est que vous allez jouer des agences de détectives qui doivent trouver des preuves après un crime et qui doivent être la première agence justement à réunir les 3 preuves qui vont vous faire gagner, en fait, vous faire trouver la résolution de ce crime. Vous êtes des détectives privés, donc les policiers vous aiment pas trop. Donc ça va se traduire aussi par des cases où il y a la police et où il faudra pas aller parce que vous allez vous prendre des petits malus si vous allez dessus.
On va se faire rembourrer un peu.
Voilà. Et donc il va y avoir un plateau au milieu de la table qui va être constitué de tuiles hexagonales. Alors c'est pas tout à fait des tuiles individuelles, il y a des espèces de pavés de tuiles regroupées, mais en gros ça va faire un gros espèce d'hexagone avec des tuiles hexagonales. Et donc les émetteurs, les indics vont avoir, comme dans Codename, un petit paravent avec la configuration en fait des cases où il faut aller et des cases où il faut pas aller, etc. Donc ça va être caché. Les deux vont avoir la même information pratiquement et les émetteurs vont pas voir ça. Et après, en gros, donc je vous ai pas dit, c'est un plateau avec des hexagones sur lesquels il y a des images. D'accord. Chaque hexagone, il y a une image assez précise avec. Voilà, on est très loin du style graphique de Dixit ou de Mysterium.
On est dans quelque chose de plus réaliste.
Voilà, je sais pas si vous connaissez la BD, c'est de l'anthropomorphisme. Donc je sais pas si vous connaissez la BD Black Sad, ça va être un peu dans le style graphique, on va dire, de Black Sad. Donc avec des animaux, et puis qui vivent comme des humains, donc qui sont au restaurant, une journaliste qui interviewe des gens, quelqu'un en prison, enfin voilà, il y a vraiment des images, quelqu'un qui est en train de faire de l'escalade. Quelqu'un à la piscine, avec différents animaux en fait.
Pour faire une autre référence, ça fait aussi penser à Zootopia.
Oui, Zootopia de Disney, ouais, tout à fait. Ouais. C'est un peu, voilà, c'est tout à fait dans ce genre-là. Donc, ce plateau est constitué de plein d'images. Et en fait, du coup, les deux émetteurs, les deux indics, vont avoir un pool de 16 cartes, qui sont aussi des cartes illustrées avec les mêmes genres d'images qu'il y a sur le plateau. J'ai dit 16, c'est 10. J'ai dit 16, je sais pas pourquoi.
Ouais, bon, il y a des cartes.
C'est hexagone 6 plus 10. Donc il y a 10 cartes, il y a un pool de 10 cartes. Et donc les émetteurs vont pouvoir piocher une ou deux cartes là-dedans pour les donner
à leur équipe réceptrice et à partir de ces cartes qu'ils vont recevoir à la manière un peu d'un à la manière d'un mysterium tout à fait hein, c'est-à-dire que la seule information qui va donner c'est les cartes avec les images, ils vont devoir deviner où ils vont devoir se déplacer parce que eux, ils vont avoir une petite figurine sur le plateau qui les représente, qui vont être sur une case et donc il y a 6 potentielles cases autour et je sais plus combien si en fait si on donne une carte, si l'émetteur donne une carte, ça veut dire qu'il doit se l'équipe doit se déplacer sur une des cases adjacentes, une des 6 cases adjacentes à la case où il se trouve. Et si la personne donne 2 cartes, ça veut dire qu'ils doivent se déplacer de 2 cases. Donc voilà, il y a encore plus de possibilités de déplacement si on se déplace à 2 cases de là. J'ai pas fait le calcul exact de combien de cases ça fait.
Je crois que c'est 12.
Voilà, ça doit faire. Je suis pas sûr parce qu'il y a des cases communes du coup.
Ouais, mais
tu justement... vois parce que là, je sais pas. Ça fait peut-être 12. Bon, en tout cas, ça fait plus de cases possibles.
12.
Ça fait 12. Merci le pionfesseur. Alors, la petite subtilité, enfin la petite originalité aussi, c'est que ça va pas être comme un codename où chacun va donner un indice à son tour. Ça va se faire en temps réel. C'est-à-dire que les indicateurs, les émetteurs vont pouvoir prendre des cartes et là, ça va se renouveler à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un va donner des cartes, on va en remettre. Et donc, ça va jouer en temps réel. Et le but, ça va être d'avoir les 3 indices le plus vite possible. Donc, comme je vous l'ai dit, chacun a un petit damier. Il va y avoir des cases, en fait, sur lesquelles on va voir qu'il y a des indices. Donc, si on arrive à emmener son équipe sur cette case-là, on va récolter un indice. Dès qu'on en a 3, il faut retourner sur une case qui est une case, en gros, de validation des preuves qui va nous faire gagner. Sur ce plateau, il y a aussi plein de cases qui sont juste blanches, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Ça peut être des cases qui sont neutres, complètement neutres, sur lesquelles on peut passer. Et comme je vous le disais, il y a des cases où il y a des croix dessus. C'est les cases où il y a la police. Et donc, si on s'arrête sur une case avec la police, eh bien, on va récupérer une petite croix. Et au bout de 3 croix, on a perdu. On se fait arrêter, en gros, par la police qui en a marre qu'on fouille dans leurs affaires. Et on se fait arrêter. Donc, voilà. On a vraiment, c'est vraiment un mélange, je dirais, entre Mysterium et Codenames. En tout cas, dans la manière de communiquer, la manière de jouer. Il y a le temps réel, en plus, qui est assez original. Et il y a le côté déplacement aussi, qui est originaux par rapport aux 2 autres jeux cités. C'est-à-dire, dans Codenames, on va vraiment se placer sur une carte. Là, on va devoir cheminer, en fait, on va devoir se déplacer de case en case pour aller sur des cartes précises. Sur les cartes où on récupère des indices, il y a certaines cartes qui sont communes aux 2 équipes. Et du coup, si une équipe va dessus, l'autre équipe pourra pas récupérer l'indice sur cette carte-là. Ça, c'est une dernière petite subtilité à préciser. Voilà pour le principe, les explications. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire.
Non, je pense que t'as bien fait le tour du jeu.
Vous avez à peu près compris comment ça marchait. Voilà, il y a du matos. Donc, il y a essentiellement les tuiles qui constituent le plateau. Il y a les cartes qui sont aussi des cartes hexagonales parce que certaines vont pouvoir compléter en fait des parties du plateau. Et en plus, je pense que si vous voulez vraiment renouveler, vous pouvez éventuellement faire un plateau complet avec les cartes.
Ouais, si t'auras moins de cartes,
mais bon, après
il y aura des extensions, c'est possible.
C'est possible qu'il y ait
mais en vrai, à la manière d'un Codenames, tu pourrais te faire un plateau toi-même avec ce que tu veux. Tu prends que des albums de musique, tu les mets en hexagone comme ça, ça marcherait aussi, ouais. Tu vois.
Et tu mets tapis de CD à côté
pour faire la pioche. Non, mais tu te fais une pioche avec ton paquet de Dixit ou de Mysterium, tu vois.
Oui, mais alors
ça marcherait pas.
Le côté hexagonal est important parce que justement, comme c'est du déplacement, quand tu vas donner une carte, faut que t'aies vraiment le choix parmi 6.
Non, mais tu peux les mettre en alvéole, tu vois, tes CD.
Ça s'empêche pas.
Ouais, alors tu te fais chier à tout découper en hexagone, quoi.
Non, tu les découpes pas.
Non, mais t'es pas obligé de découper tes boîtes de CD.
Tu les places de manière.
Tu les places à ce qu'il y en ait 6. Ouais, je vois.
Et ça marche, ça fait comme
ça. Ça marche, mais c'est chiant à faire, je pense, quand même.
C'est chiant à faire.
C'est pas facile à faire.
C'est juste, effectivement, c'est ce qui fait que Codenames est mieux, d'ailleurs.
On va y revenir.
Non, mais c'est juste pour expliquer que comme Codenames, tu pourrais jouer avec des cartes d'un autre jeu, tu pourrais jouer avec autre chose, même s'il faut que t'adaptes un peu le plateau.
Oui. Mais alors, Codenames, c'est beaucoup plus facile par rapport au principe de jeu.
Là, c'est beaucoup plus dur à adapter.
Comme Codenames, il n'y a pas le déplacement, c'est juste un quadrillage, tu places les trucs, il peut avoir n'importe quelle forme. Là, comme t'as le côté carte adjacente qui est très important, dans Codenames, en fait, les cartes adjacentes, tu t'en fous. Enfin, c'est juste pour la grille des personnes qui pour les repérer.
Ouais.
Mais l'adjacence des cartes n'a aucune importance.
Donc juste rassurez-moi, on n'est pas dans une chronique do it yourself là, non?
Non, pardon, podcast. Ça existe encore la chronique do it yourself?
Ah non, il me semblait pas, mais bon, on peut en refaire une du coup.
Ouais, tout à fait.
Je sens qu'on va vous brancher.
On va te laisser continuer.
Non, mais y a pas de souci.
Du coup, le comparatif avec les jeux de la même famille, bon, on l'a dit, c'est vraiment dans la lignée de chez Libellud, Dixit, Mysterium, avec la communication par l'image. On donne des images pour faire deviner une case sur laquelle on va devoir se déplacer.
On est bien effectivement dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils
Tout
se
à
sont
fait.
Vraiment inscrits dans une sorte de spécialité là-dedans. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est une espèce de jeu complémentaire. Ils vont aller explorer une autre veine. Le jeu temps réel sur ce genre de choses, et ça a donné ça quelque part.
Ils ont fait One Key depuis aussi, qui est basé aussi sur de la communication.
Oui, tout à fait. J'ai pas encore joué, effectivement. Ouais. On en parlait tout à l'heure du système chaud-froid. Il est chiant. Le professeur dit qu'il est chiant. Bon, je n'y ai pas encore joué.
Couper mes avis comme ça au montage.
Non, on attend la chronique chiornée de toute façon.
Non, mais oui, il est clairement pas ouf.
Je trouve pas que ce soit le meilleur.
Il apporte rien de nouveau, One Key. Mais justement, Libellule, en fait, il se spécialise un peu trop là-dedans et du coup, il devient un cliché.
Il s'enferme un petit peu.
Il devient un cliché de même et c'est un peu dommage.
On y reviendra à la fin, mais pour le coup, moi, Shadows Amsterdam, j'ai trouvé que ça apportait un peu quelque chose de nouveau. On a le côté Mysterium dans le côté communication un peu coopératif de je donne la carte à mon équipe. Donc, c'est du coopératif par équipe, c'est quelque part. On a vraiment ce côté-là. On a le côté.
Si t'avais un Mysterium par l'Elysée, quoi, quelque part.
Ouais. On a le côté vraiment jeu par équipe, un peu comme Codenames. Moi, j'aime bien les jeux par équipe. Je trouve qu'il y en a pas beaucoup des jeux où vraiment on joue équipe contre équipe. C'est assez rare. Donc ça, je trouve que ça fait toujours du bien quand il y en a un parce que c'est sympa et ça rajoute vraiment ce côté déplacement et temps réel qui rend le truc un petit peu plus frénétique, un petit peu plus. Il y a beaucoup plus de tension que dans un Codenames où tu as vraiment le temps de la réflexion. Là, en fait, ça va mettre. C'est comme si c'était un Codenames sous tension où vraiment Codenames, tu peux mettre le sablier, mais bon, c'est pas non plus. Tu fais pas la course. Tu fais une course, mais tu dois vraiment faire le meilleur coup possible à chaque tour. Là, tu dois faire les coups les plus rapidement possible. En gros, c'est différent.
Ou pas, parce qu'il faut pas te planter quand même.
On est d'accord. Mais c'est quand même une course en temps réel. Donc, c'est-à-dire que si tu perds du temps à réfléchir 3 heures, l'autre aura pu donner 4 cartes et fait 3 déplacements sur 4, peut-être, même s'ils sont gourés une fois. Et c'est vraiment, ça va vraiment être tendu.
Je trouve que tu as très bien décrit le jeu en disant que c'était un Codenames en temps réel avec la communication de Mysterium et des contraintes spatiales de mouvement.
Voilà.
Ouais. C'est, je pense que franchement, tu as très très bien dit le truc.
On peut pas faire d'autres comparaisons finalement.
Non,
c'est assez difficile. J'aime pas trop dans Shadow of Tandem, c'est qu'en fait j'aurais voulu qu'il y ait plus de le côté frénétique. Tu vois, plus à la pour le coup, j'aurais voulu pouvoir le raccrocher des Captain Sonar en fait. Et ce côté temps réel en équipe, affrontement. Mais là en fait, je sais pas, il me manque un côté c'est pas assez rapide, pas assez punchy. Alors peut-être que c'est le jeu par qui j'avais fait.
Je vois bien ce que tu veux dire, mais moi justement, moi ça me convient mieux parce que moi Captain Sonar j'ai un peu du mal parce que.
Ah, t'es un petit peu lent d'esprit, c'est ça.
Bah non pas vraiment. Non je suis pas.
On a perdu professeur, il est mort.
J'ai pas dit que j'aimais pas Captain Sonar. J'ai pas dit que je n'aimais pas Captain Sonar.
Je vois Captain Sonar en sortant de cette émission.
Il est là.
Je l'ai ramené.
Alors j'ai pas dit que j'aimais pas Captain Sonar, mais Captain Sonar. Enfin. Moi, je trouve que c'est trop la foire, fois.
Rien de perdre aussi bénéfique.
C'est pas pareil, parce que là, Captain Sonar, c'est vraiment asymétrique à fond. Oui. Genre, les quatre membres de l'équipe ont un gameplay très, très différent. Sûr,
ouais. En fait, je trouve que dans Shadows... Enfin, pour mes goûts de jeu, en tout cas, dans Shadows Amsterdam, le côté temps réel est présent ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est pas trop vraiment... Putain, c'est pas la panique, tu vois.
Non, ouais.
C'est pas le côté je panique, parce qu'il faut vraiment que je fasse un truc très, très vite. Mais ça tend quand même le tu regardes quand même ce que l'autre fait, tu dois quand même aller plus vite que l'autre, tu vois, c'est
ça me fait penser un peu au genre de jeu de rapidité à la Ricochet Robot, tu vois.
Ouais.
Genre c'est de la rapidité mais en fait c'est pas frénétique, c'est genre faut aller plus vite que les autres mais en fait t'es juste là à réfléchir et à te prendre le
alors
prendre
t'as pas la réflexion aussi poussée que dans un Ricochet Robot,
non,
ça
non,
reste
bien sûr,
beaucoup
mais
plus
juste pour dire que c'est pas de la frénésie, c'est juste là.
Non, mais
faut aller plus vite,
il faut quand même discuter avec ton équipe, donc tu vois tu peux pas
discuter avec ton équipe. Non,
bah il faut
non
c'est bon quand même.
Ah non, tu veux dire oui,
ah,
non,
oui,
tu veux dire
parle,
les
dans
oui.
Shadow Amsterdam, pardon.
Attends, alors avec mon équipe, le l'émetteur peut rien dire. Effectivement,
non,
entre les gens entre eux doivent discuter pour se mettre d'accord.
Ouais. Entre récepteurs.
Alors c'est comme Codenames, j'y reviendrai, mais en fonction des configurations de joueurs, effectivement quand tu joues à 4, en fait, c'est tu donnes la carte et l'autre joueur peut se déplacer tout de suite, il y a pas de discussion. Effectivement, quand tu joues à plus, à 6 ou 8, il va y avoir 2 ou 3 personnes dans l'équipe et donc oui, ils doivent se mettre d'accord, elles doivent se mettre d'accord entre elles. Pour savoir sur quelle case elles vont se déplacer. Donc effectivement, ça peut prendre un peu de temps. Et à 4, du coup, ça c'est beaucoup plus tac au tac, c'est beaucoup plus rapide que quand tu joues à 6 ou 8.
J'ai pas essayé à 4, mais du coup...
Moi, j'aime beaucoup à 4. Hein. Ouais. Alors, on en reparlera sur les configurations, ouais. Mais moi, j'aime bien à 4.
On en reparlera.
Donc ça c'était pour plutôt les comparatifs avec les jeux du même style, voilà, on est mais alors effectivement il y a des similitudes avec Codenames, mais c'est pas du tout les mêmes sensations quand même, hein. C'est il y a des
bah c'est pas Brain Burner comme Codenames quoi.
Non mais il y a même effectivement il y a des
bandes machin là, c'est visuel, c'est plus
il y a
direct.
Beaucoup d'analogies sur le jeu, en tout cas sur le passage de messages, etc., mais dans les sensations, moi c'est assez différent. Pour moi j'ai pas tout à fait les mêmes sensations de jeu.
Pour moi c'est plus proche de Mysterium pour le coup, tu vois.
Ouais,
mais en temps réel.
Mais en temps réel et par équipe, hein, avec le mode compétitif par équipe que ça.
Non mais en termes de feeling,
en termes de feeling, c'est plus proche de
sentiment. T'es plus proche de Mysterium à cause de la communication.
Je suis d'accord. Alors, on en a déjà pas mal parlé, les trucs malins, les trucs moins bien. Moi, je trouve que voilà, c'est vraiment une fusion assez sympathique entre des choses qui existaient plus ou moins déjà. Mais pour un premier jeu d'un auteur, c'est pas étonnant qu'il y ait des inspirations de l'éditeur dont il. Où il travaille, ouais. Donc Libellude, sur le côté communication de l'image, le côté Codenames, finalement c'est plus, en fait le côté Codenames, je pense qu'il est plus venu par comment faire pour mettre du temps réel et pour que quelqu'un va donner de l'information, tu vois, enfin c'est plus le côté il y a un plateau qui avec une configuration cachée et que les deux équipes voient pas et que il y a l'émetteur qui voit, enfin c'est plutôt le côté émetteur récepteur qui fait que par équipe, qui fait que ça se rapproche de Codenames, je pense.
Ouais, comme tu dis, le plateau avec les spots qui correspondent à des les points particuliers qui correspondent à des points par équipe. Petite différence avec Codenames, c'est quand même il y a des points qui sont communs aux deux équipes dans Shadow Amsterdam.
Ce qui n'est pas le cas dans Codenames.
Ouais, voilà, Codenames c'est individuel. Bon.
Ce qui est le cas dans le Codenames duo.
T'as l'assassin qui est commun dans.
Non, l'assassin n'est pas commun.
Dans Codenames.
Codenames, l'assassin n'est pas commun.
Si. Enfin, le noir.
Bah, le normal, en tout cas. Le normal.
Il faut pas toucher.
L'assassin est commun?
Ah oui, oui.
Ouais, okay. Je joue beaucoup. J'ai plus joué à Codenames Duo, du coup.
Ouais.
Où là, l'assassin est différent, même, je pense. Ouais. Et il y a des trucs, il y a des mots communs, il y a des mots, justement, qui sont pas communs. Enfin, c'est.
Mais par contre, t'as pas de bleu et rouge dans Codenames. Enfin, les trucs qui sont communs. T'as pas de trucs à deviner communs.
Ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, dans Codenames.
Ouais, ça pourrait être
des trucs le premier, parce que du coup, ça t'obligerait à l'avoir en premier.
Mais dans Shadow Amsterdam, t'as vraiment des points communs aux deux joueurs qui doivent tous les deux aller choper.
En fait, t'en as trois qui sont communs et trois qui sont différents. Il y en a six en tout, tu dois récupérer trois indices. Il y a trois communs, trois différents. Sur la critique en elle-même, quand je vous ai expliqué le jeu, si vous aimez bien les jeux où on communique en donnant des images ou voilà, c'est cool. Si vous aimez bien les jeux par équipe, c'est cool. Si vous aimez bien les jeux en temps réel, ça va être cool aussi. Donc c'est la fusion de, si vous aimez bien ces trois aspects-là, vous allez aimer bien le jeu. Si vraiment vous aimez pas le temps réel.
J'aime bien les trois, mais tu vois, le côté temps réel, il est pas comme ce que j'aimerais, quoi.
D'accord.
Mais là, c'est du sentiment personnel. Hein. Moi, j'aime le côté frénétique dans le temps réel.
Ouais. Alors effectivement, c'est pas frénétique, mais moi, je trouve.
Sauf peut-être à 4, du coup, on en reparlera peut-être, du coup. Mais du coup,
À 4, c'est un petit peu. À 4, à 4, c'est plus tendu. Et c'est pas frénétique, mais moi, je trouve c'est suffisant pour te faire sentir le. En fait, ça dépend aussi de ton adversaire. Hein. Si ton adversaire met 3 plombes et que toi, tu mets 3 plombes, effectivement, ça sera pas du tout frénétique.
Oui.
Si tu joues contre un émetteur qui va être super punchy, la pression, tu vas la sentir quand même. Ce sera pas frénétique, mais la pression, tu vas bien te la ressentir quand même. Sur le matériel, c'est du Libellude, hein. Alors, c'est un Libellude, petite boîte. C'est pas les boîtes Mysterium Dixit, hein. On est sur
le Codenames.
De quoi? C'est la Time Codenames, ouais. C'est à peu près la Time Codenames. Tout à fait, ouais.
Est-ce que c'est le premier jeu de Libellude de cette taille-là?
C'est une bonne question.
Il faudra regarder sur les jeux d'un autre style.
C'est une bonne question, mais c'est vrai que beaucoup de. Après, ils avaient fait des jeux en petite boîte. Je pense à Nautilus notamment. Je crois que c'est Libellude qui a fait un jeu de cartes. Voilà, des gammes jeux de cartes un peu plus petites.
Ouais, je pense aussi dans leur vieille gamme.
Format,
mais je pense. Je sais pas.
De quoi?
C'est le même format.
Ouais.
Que Nautilus, non. Nautilus c'était plus petit.
Ah oui, non, ouais.
C'était plus petit, ouais.
C'était après, pareil, t'as l'extension de Mysterium, là, Hidden Signs, mais bon, pareil, c'est pas le même format.
C'est une extension, après, voilà.
Non, mais là, on sent que, ils l'ont peut-être dit dans des interviews, j'ai peut-être lu, je sais plus. Mais
on sent une nouvelle gamme, ouais.
Non, mais ils voulaient aussi surtout être dans la gamme de Codenames, c'est-à-dire que vraiment être dans le même genre de format, c'est quand même un jeu similaire, il faut que ça rentre dans la gamme de prix, etc., donc,
oui, tout à fait.
On est
sur 22,50, donc quand même beaucoup moins cher qu'un Mysterium. On a quand même une dizaine d'euros, un peu plus de moins qu'un Mysterium.
Pourtant, il y a du boulot d'illustration. Hein.
Voilà, il y a énormément d'illustrations voilà sur ces jeux-là. On en parlait justement, je crois, avec l'auteur.
Il en parle dans son interview. Hein.
Ouais, que forcément il y a, j'ai plus le nombre de cartes en tête.
Je crois qu'ils ont fait le boulot en 4 mois, si je dis pas de conneries dans l'interview. Il y a
84 cartes.
Ouais.
Recto plus recto, non, les cartes sont pas recto verso. Et après il y a les 7 morceaux de plateau. T'en utilises 6 à chaque fois.
Ouais.
Qui sont recto verso avec l'équivalent de 5 cartes sur chaque. Donc un travail d'illustration qui est quand même assez monumental. Et c'est pour ça aussi, on a parlé pour Mysterium, je crois. C'est pour ça qu'ils ont fait appel aussi à un studio où il y a plusieurs dessinateurs qui peuvent avoir un rythme de production relativement important. Mais c'est très uniforme. Hein, c'est un studio, mais globalement. T'as pas l'impression que c'est 4 ou 5 personnes différentes qui ont, alors je sais pas combien ils sont, hein, ça se trouve ils sont 2, mais t'as pas vraiment de disparité dans.
C'est homogène quoi.
Ouais, c'est très homogène. Et le matériel, alors c'est des tuiles, les tuiles c'est des cartes épaisses en fait, c'est de la carte en gros, tout ressemble à des cartes, que ce soit les grilles avec les indices, enfin pour les émetteurs, les cartes, tout est dans le même genre. Et après il y a une structure un peu plus gros cartonnée. Pour justement faire tenir le plateau, c'est un truc que tu mets au milieu et tu vas mettre les parties de plateau autour en fait. Ça va faire que ça tient, que tout glisse pas à droite à gauche quand tu te déplaces. Et après voilà, il y a les jetons croix, il y a quelques figurines. Voilà, il y a les figurines des petits détectives qui se déplacent, qui sont des figurines plastiques. Donc niveau matos, qualité Libellude, hein, c'est plutôt très propre. Tout est très bien fait. Sur l'adéquation avec le thème, alors c'est marrant parce que quand on part de Dixit, très onirique, en fait finalement le thème ça peut être n'importe quoi, ça marche. Mysterium, on ancre un peu plus ça dans le réel, mais ça reste un esprit qui communique par l'image, donc ça a du sens.
Il y a un côté sombre et tout ça, voilà. C'est en adéquation.
Shadows Amsterdam, ils ont voulu vraiment attacher ça dans la réalité. Alors on discutait avec l'auteur, ils ont voulu de l'anthropomorphisme, parce que c'est quand même des détectives qui enquêtent sur un meurtre, etc. Et comme c'est un jeu familial, en fait, le côté animaux faisait passer ça un petit peu plus facilement.
Un peu plus cool, quoi.
Donc, alors
finalement, c'est une enquête, on a perdu un chien, quoi.
Peut-être. Sur la partie thématique, en fait, finalement, le déplacement sur le plateau qui représente les différents quartiers de la ville d'Amsterdam avec l'animation, etc. Ça retranscrit plutôt bien. En fait, les détectives vont se déplacer, fouiller des lieux pour trouver des indices. Après, la communication des indices par l'image, ça, il n'y a pas trop de sens thématique finalement. Pourquoi
On pourrait se dire, en cherchant un peu, le mec qui téléphone, il dit oh ouais, alors tu vois, tu prends la première à gauche, là où il y a le réverbère vert, machin truc. Ouais. Bon,
voilà.
Éventuellement.
Non, mais ça passe. Hein, je dis pas. Mais voilà, ce côté communication avec des images. Dans la thématique, c'est pas immédiat, mais après le reste marche plutôt bien avec la thématique.
Alors moi, je sais pas si tu vas parler de l'ergonomie ou pas ? Est-ce que moi, enfin,
on peut parler d'ergonomie. Hein.
En termes d'ergonomie, le matériel est bien fait, tout ça, y a pas de souci là-dessus. Hein. Même le paravent, il tient mieux que celui de Fuji. mais je pense qu'il supporterait le vent, lui.
Ouais, alors c'est un paravent, c'est marrant parce que souvent les paravents, il est en 4 plis, enfin il y a 3 pliures, il fait 4 volets en fait. Ça c'est juste pour épouser l'hexagone. Donc ça c'est plutôt bien fait.
C'est rigolo.
Normalement les paravents c'est en 2 pliures, t'as 3 volets et là il y a vraiment les 4 pliures. 3 pliures.
Alors moi, en fait, quand tu joues à nombreux, je trouve que ça devient difficile en fait de lire les cartes. En fait, tu te retrouves potentiellement loin de la table. Du coup, il y a quand même beaucoup de détails sur les cartes. Oui. Quand les cartes que tu te les passes, en fait, dès que tu te retrouves à 6, 8, c'est quoi la limite qu'ils donnent, eux ?
8.
Ils donnent
8 en limite. Ils disent 2, 8, mais je reviendrai sur les configurations à 2, 3 joueurs.
Et t'arrives plus à avoir, t'as intérêt à avoir un bon éclairage, quand même.
Ouais.
Et, tu vois pas bien les cartes, quoi. Tu passes à côté de détails,
C'est ça qui est marrant, parce qu'au final, tu vois, c'est un jeu où ça se joue en temps réel, potentiellement à 8. Enfin, je veux dire à 8, c'est-à-dire à 3 personnes potentiellement qui regardent l'image, 3 récepteurs qui regardent la même image.
Mais attention, le même celui qui passe les infos, il faut qu'il voit les images.
Ouais, donc dans 4 personnes qui regardent la même image. Et au final, c'est des petites cartes, alors que Mysterium, t'as la carte directement devant toi. Et c'est du format tarot,
ouais,
tu vois.
Donc ouais, ça là, là en gros, ça fait, donc c'est des hexagones, mais ça fait, c'est l'équivalent d'un carré,
ça fait même pas un tiers.
Bon 5 centimètres.
Un tiers de carte de tarot, quoi.
Bah, ouais, je pense que ça fait un carré, si on faisait un carré, ça ferait vous savez, il y a des cartes carrées de 8x8 ou 6x6.
Vous allez faire du 6x6.
6x6, ouais. Ça fait la moitié d'une carte de tarot, je pense, à peu près.
Même moins. Moi, je dirais un tiers.
Ouais, je vois.
C'est grand, une carte de tarot. Oh, ouais, non, t'as raison, moitié. Non, ouais, j'exagère, moitié.
Mais alors,
après on comprend que il faut que ça puisse tenir sur une table quand même. Une fois que t'as mis tout le plateau, si tu fais des trucs deux fois plus grands, alors oui, ça va être beaucoup plus confortable à jouer, mais ça tient pas sur ta table.
Là, le plateau il prend un peu de place, quoi. Ouais.
Ça tient pas sur ta table et du coup bah t'es pas du tout sur le même format. Donc on comprend bien que là il y a une contrainte d'éditeur en tout cas sans doute vouloir rentrer dans la gamme de Codenames parce que c'est quand même le genre que ça propose, quoi. Et du coup t'es plus sur le même prix, t'es plus dans la même gamme et c'est pas la même chose et du coup c'est plus le même public, quoi.
Après sur ta remarque,
on s'en fout ergonomiquement, reste mauvais.
On comprend le choix de l'éditeur, mais ergonomiquement moi j'ai vraiment des soucis. J'ai joué à Épinal, l'éclairage était pourri, franchement on était proche de la table, c'était dur à jouer.
Alors j'entends effectivement faut plutôt un bon éclairage. Je suis d'accord avec toi sur l'éclairage, faut que ça soit plutôt bon. Après effectivement, si t'as vraiment des problèmes de vue et que t'as du mal à voir de loin, c'est mort. Après tu vas pas aller voir le voir le détail de la petite fleur qui est tout petite dans le coin de l'image. Enfin généralement t'as suffisamment d'éléments qui sont visibles de loin. Genre je prends un exemple, là on voit des enfants qui escaladent une clôture, qui rentrent dans un cimetière avec deux tombes, un sac, enfin ça, que tu sois à 2 centimètres ou loin, tu vois en fait l'environnement.
Ouais, j'avais pas compris que c'était un sac, moi. Ça.
Est-ce que c'est des enfants, tu vois, de là, je peux pas forcément le dire, quoi. C'est juste pour expliquer que. Ouais.
En tout cas, sur les parties, j'ai jamais ressenti, ce problème. Enfin, personne m'a jamais dit, je vois vraiment pas la carte. Ou alors, de toute façon, tu peux t'approcher un peu du plateau.
Ah mais il faut jouer debout.
Ouais. Mais encore une fois, on va revenir sur les configurations. Ouais. Effectivement, à 8, c'est peut-être plus chaud que à 4. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais ouais, moi, ça me choque pas parce que je trouve que quand même... Alors, j'ai une bonne vue.
Ah, mais c'est ça aussi.
Mais l'information, j'arrive à... Même si tu veux, bras tendu d'une carte, j'arrive à voir toutes les informations à peu près...
Ça, c'est la suite.
tu fais bien de le signaler, ça peut être un problème... Si la luminosité est basse, s'il y a des personnes qui voient un petit peu moins bien, si on est nombreux autour de la table, effectivement...
D'autant plus si c'est un jeu qui se veut familial. Moi, mes parents, par exemple, ils ont beaucoup de mal à voir de loin. Il y a plein de jeux où les textes des cartes, ça peut devenir un problème.
Ouais.
Là, vraiment, les illustrations comme ça, avec cette taille-là, je pense que ça peut être un gros problème, quoi.
Alors, donc ça va être un problème pour le plateau, parce qu'effectivement, les cartes que tu te passes, là, tu peux les regarder vraiment de près.
Oui, je parle du plateau. Si tu dois te pencher, c'est chiant parce que c'est un jeu en temps réel quand même.
Oui, non, je suis d'accord.
Tu perds du temps par rapport à l'autre équipe, donc il y a une espèce de discrimination.
Équilibrer les âges et les acuités visuelles par équipe.
C'est une bonne remarque parce que effectivement, moi, c'est pas un problème que j'ai eu sur mes parties, donc mais c'est un problème qu'on peut avoir effectivement.
T'as tout ça pour dire qu'il est plus jeune que moi, quand même. Ouais, on peut passer à la suite, là?
Non, mais.
Ça fait, je déconne.
Achète-toi des lunettes, hein, c'est. Si tu vois plus les cartes, sérieusement.
Ah, putain. La déchéance.
Au niveau de l'interaction, alors, il n'y a pas d'interaction directe entre les deux équipes. Il y a une forte interaction entre l'émetteur et le récepteur, comme Names. Mais il n'y a pas énormément d'interaction entre les deux équipes.
Ouais,
si ce n'est entre les émetteurs, tu vas prendre des cartes qui t'intéressent. Donc, si t'es en train de réfléchir en te disant cette carte, elle peut être bien et que l'autre la prend, forcément, tu l'as plus, quoi. Mmh. Donc, comme c'est du temps réel, t'as cette pression aussi de prendre des cartes. Si t'as une carte où
il y a pas une histoire, l'émetteur, il doit prendre, toutes ses cartes d'un coup, non? Il peut pas dire, j'en prends une et puis après, prendre la deuxième.
L'émetteur en prend une ou deux.
Ouais.
Et donc, s'il veut en donner deux, pour se déplacer de deux cases, il est obligé de prendre les deux d'un coup.
Ah, c'est ça,
il peut pas attendre qu'il y ait une douzième qui repop.
Éventuellement, il peut se faire piquer celle qu'il avait repérée au départ.
Voilà.
Mais bon, tu fais pas exprès, quoi.
Non, tu fais pas exprès. Non, c'est pas de l'interaction exprès, mais c'est de l'interaction quand même parce que peux te faire chipper les cartes. Et...
Tu peux pas te bloquer sur le plateau. Je me souviens plus.
Non, tu peux pas te bloquer sur le plateau. Tu peux être à deux sur la même case. Il y a pas de blocage.
Et tu peux pas révéler un indice adverse par erreur comme dans Codenames.
Non.
Ah, tu vois, ça c'est dommage.
Non, bah, ça, tu
ouais, pour, la, pour le coup, thématiquement, ça se tiendrait pas trop.
Non, mais bah, alors voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est contrairement à Codenames, t'as des indices en commun. Donc si t'y arrives avant l'autre, bah, l'autre pourra plus prendre l'indice sur cette case-là.
Et, ils les connaissent.
Non. Je me rappelle. Enfin, il y a que les indices qui connaissent. Donc ouais, l'indique va se dire, bah, je peux plus aller sur cette case-là, mais les autres savent pas qu'on leur a piqué un indice.
Ouais, mais ils savent lequel est en commun. Donc ils peuvent essayer d'envoyer leur équipe avant.
Oui, tout à fait. Enfin, les deux indices savent lesquels sont en commun.
Ouais, d'accord.
Bah, heureusement.
Non, mais,
Donc sur le type de joueur à qui ça s'adresse, bah comme j'ai dit, on est sur quelque chose d'assez familial, assez on n'est pas forcément du gros joueur, hein, ça, enfin moi je joue pas mal ou à l'assaut où c'est pas forcément des gros joueurs. Au boulot ça marche très très bien, ça joue par équipe en plus, donc c'est plutôt chouette. Donc c'est plutôt familial, assez accessible. Même si c'est un peu comme dans Mysterium ou dans Codenames, le rôle d'indique est forcément un petit peu plus difficile, plus exigeant que le rôle de récepteur, quoi. Mmh. C'est-à-dire que faut quand même quelqu'un qui sache un petit peu jouer, qui comprenne un petit peu le jeu en tant qu'indique.
Surtout si on a déjà joué avant à du Dixit ou surtout du Mysterium pour le coup.
Ouais.
Voilà, ça va aller vite, quoi. Enfin, l'explication.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Si vous avez l'habitude de ces jeux-là, il y a pas de problème. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur le type de joueur à qui ça s'adresse. Sur les configurations, donc là, il y a des choses à dire par contre. Donc sur la boîte, c'est écrit de 2 à 8.
Alors comment on joue à 2 déjà ?
Voilà, donc 2 et 3, c'est exactement comme Codenames, c'est des variantes. Alors Codenames, il y a eu un Codenames duo qui est spécial à 2, mais sur le jeu de base, c'est des variantes. En gros, ça va être un 2 et 3, ça va être un jeu purement coop. D'accord, il y aura pas de course entre deux équipes. Et en gros, tu vas avoir un timer. En gros, à 2 ou à 3, bah c'est soit il y a un indique et un récepteur, soit un indique et deux récepteurs, et ça va être juste du time attack. C'est-à-dire qu'il va réussir à prendre trois indices en, il y a différents niveaux de difficulté, 15, 10 ou 5 minutes.
D'accord.
Okay. Voilà. Il y a trois niveaux de difficulté. Ils ont fait quand même une appli pour ça. Il y a une appli officielle Shadows avec le chronomètre pour la variante à 2 et 3 joueurs. Bon, tu peux lancer n'importe quel chronomètre, hein, mais ils ont une petite appli. Bon, c'est... Voilà, avec les illustrations du jeu.
Ouais, ils ont peut-être prévu de, c'est une appli Libellude ou c'est une appli Shadows Amsterdam?
Je ne sais pas.
C'est pas grave.
Je sais pas trop. C'est une appli Shadows Amsterdam, a priori. Ouais. Hein.
D'accord, ok.
Enfin,
il y a beaucoup d'éditeurs qui se mettent à faire une appli labellisée nom de l'éditeur, et après, à l'intérieur, t'as plein de...
Non, c'est vraiment une appli Shadows. Vous pouvez utiliser l'application officielle Shadows Amsterdam, télécharger à l'adresse libellude.digital/shadows, machin, là, où il y a un QR code sur le livre de règles.
Quand ils feront Shadows of New York, on va faire l'appli, quoi.
On va y revenir.
pour le coup, cette variante de 3 joueurs, je pense qu'elle est peut-être plus intéressante. J'y ai pas joué, mais je pense qu'elle est peut-être plus intéressante que celle de Codenames. Dans le sens où elle propose, à mon avis, le même feeling que le jeu de base.
C'est ça.
Tellement il y a.
Sauf que la pression.
Il y a peu d'interaction avec l'autre joueur. Donc au final, jouer tout seul.
La pression, au lieu de te la prendre par ton adversaire, tu te la prends par un chronomètre.
Ouais, c'est ça. C'est la même chose.
Après, c'est quand même moins sympa, je pense, parce que. Parce que après, t'as les railleries entre les deux équipes, tu sais, les récepteurs, ça dépend. Hein.
Puis tu peux pas te faire piquer tes cartes aussi.
Voilà.
Donc oui, c'est un peu moins bien, mais je trouve, j'ai juste dit qu'elle était, je pense, mieux que Codenames.
Oui, ça retranscrit plus le jeu.
Le sentiment initial du jeu.
Tout à fait. Donc ça, c'est 2-3. Et après, 4-8. Donc, comme on l'a dit, 4-6-8, c'est mieux en nombre pair, même si c'est pas une obligation que dans les deux équipes, au niveau récepteur, il y a le même nombre de joueurs. Mais moi j'ai plutôt joué à 4 et 6. 8 effectivement, t'es 3 récepteurs. Alors que ce soit au niveau ergonomie pour voir le plateau, au niveau temps de décision, que les 3 se mettent d'accord, etc. Je déconseillerais le 7-8 en gros. Enfin, plus de joueurs.
Trop de joueurs.
Je crois que j'avais joué 6 et 7. Effectivement.
Ouais. 4-6, alors 6 c'est déjà un petit peu plus gérable parce qu'à 2 les gens arrivent à se mettre d'accord un peu plus facilement et ça va déjà un petit peu plus vite. Et 4 je trouve ça vraiment bien parce que c'est vraiment, alors on perd un peu le côté discussion entre les équipes qui peut être intéressant entre les personnes qui se mettent d'accord, qui disent voilà, parce que le côté fun aussi, c'est comme dans Codenames, des fois quand t'es indicateur, quand t'es émetteur et que t'entends les discussions des récepteurs où tu te dis mais ils ont fumé quoi, ils racontent n'importe quoi, mais c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Donc ça, t'as un côté très très sympa là-dessus qui peut vraiment amener des situations très très marrantes. À 4 tu vas pas l'avoir ça parce que tu vas donner la carte, le mec va se déplacer.
Mais tu vas peut-être avoir un côté plus frénétique.
Mais voilà, tu vas avoir un côté beaucoup plus sous pression, beaucoup plus clac 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 clac. Alors c'est un jeu aussi où ce qui est assez intéressant, c'est que
les gens peuvent faire des erreurs, tu vas pas leur dire. Tu leur dis, enfin, ça, c'est un peu différent aussi de codenames où quand les gens disent un mot, tu sais, tu dis c'est un neutre, un mauvais, etc. Ouais. Là, à part si tu vas sur un flic où il y a la petite croix. Ouais. Mais s'ils viennent sur une case neutre.
Mais si c'est pas la bonne direction, ils le sauront pas.
Quoi. Et que c'est pas la bonne direction, ils le sauront pas. Tu as pas le droit de leur dire. Donc. Bon,
d'un autre côté, ça.
L'émetteur doit tout le temps s'adapter.
Ouais. Ça t'éloigne de celui vers lequel tu voulais aller, mais ça te rapproche d'un autre.
Peut-être d'un autre, mais par rapport aux cartes que t'avais repérées pour faire ton cheminement, bah tu vas devoir réfléchir un cheminement. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et à 4, t'as vraiment plus ce truc-là qui est plus frénétique, quoi.
Donc voilà. À 5, en revanche, ça doit être un peu chelou, hein. Non?
À 5, ça va être un peu chelou parce qu'il y en a deux qui doivent. Ouais, à 5, je déconseille aussi, je pense.
Je pense pas que ce soit.
Ouais, 5, je pense que c'est la configuration la pire. Parce qu'effectivement, t'as une équipe où il y a un mec qui va décider tout seul et qui va pouvoir aller très vite, et une équipe où ça va discuter. Autant, à 7, il y a 3 dans une équipe, 2 dans une équipe.
Ouais, il y a de la discussion.
Il y a de la discussion quand même.
Sauf que s'il y a un totalitaire, tu as la table, mais.
Tu as tout à fait raison, à 5, je pense que c'est pas terrible. C'est vraiment pas ouais. Peut dire que c'est la configuration la pire,
sans doute on va dire en tout cas.
La configuration non variante
ils ont pas
solo.
Mis, on voit pas encore sur les boîtes de jeu de 2 à 4 ou de
c'est 2 4 7 ou 8 joueurs. 6 7 ou 8 joueurs. Voilà pour les configurations, pour les suites, extensions, etc. Alors, en discutant avec l'auteur, en gros, ils veulent éventuellement faire une gamme avec d'autres villes, mais il faut, enfin, leur deal, c'est qu'il faut que ça amorte quelque chose mécaniquement, qu'il y ait une mécanique supplémentaire. Ils vont pas faire une deuxième boîte avec exactement la même mécanique, Shadows New York, avec exactement le même principe. C'est-à-dire que, voilà, ils ont des idées, ils vont amener peut-être, ils ont une réflexion de gamme sur le principe, mais il faudra qu'à chaque fois qu'ils sortent une boîte, il y ait un twist par rapport à la boîte d'avant, sinon ils y voient pas trop d'intérêt de juste refaire des illustrations différentes.
Moi, pour le coup, je suis pas d'accord. Je trouve, enfin, avec eux, en tout cas, c'est totalement l'inverse. C'était ce que j'avais dit dans une chronique justement sur les extensions.
Ouais.
Pour moi, une extension, c'est l'inverse. Ça doit apporter de la variabilité, ça se dit.
Ouais.
Ça doit apporter de la rejouabilité,
oui.
Au sens où ça te met plus de contenu et pas plus de règles, parce que plus de règles, ça veut dire que tu joues un autre jeu au final.
Mais là, ils parlent pas d'extension justement. Ils parlent d'une gamme de jeux sur le même principe, mais avec des choses en plus.
Cool.
Tu vois, enfin, c'est pas comme une extension en fait. Ça va être un standalone à chaque fois.
Un autre jeu dans le même univers.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Dans le même univers avec le même principe de communication par carte, de déplacement, mais avec à chaque fois des.
Dans ce cas, tu prends n'importe lequel de leurs autres jeux, quoi.
Bon, on verra. Alors, laissons-leur le bénéfice du doute. On verra ce qu'ils proposent.
Soyons simples à partir de ça.
Si ils trouvent quelque chose, effectivement.
Après, voilà, je crois que en discutant avec l'auteur, et c'était des réflexions qui étaient en cours, je crois pas qu'il ait dit que c'était dans les tuyaux de faire juste un paquet de nouvelles cartes pour et de nouveaux plateaux pour Shadows Amsterdam. Tu vois. Ils ont dit, on fera peut-être d'autres villes, mais dans le cas où on fait une boîte standalone avec une autre ville, il faudra qu'il y ait.
Mais bon, tu iras jouer avec tes pochettes de vinyle, puis c'est tout.
Tes CD que tu mettras en hexagone de manière complètement compliquée.
Jeux de société.
Jeux de société.
36 boîtes de jeux de société sur le sol.
On va aller faire ça sur le pouce tout à l'heure.
Après, tu files d'autres boîtes, comme un dit. Faut lui envoyer des jeux de société.
On peut faire ça.
On a de quoi faire. Ben voilà, c'était Shadows Amsterdam. Donc mon avis final, c'est que moi je trouve que c'est un bon mashup de Codenames, Mysterium et de jeux en temps réel par équipe. Voilà, le mashup marche bien. Il est intéressant, il ramène quelque chose quand même qu'on n'avait pas forcément dans cette catégorie de jeux là. Voilà, il ramène une.
C'est quand même un nouveau jeu, on peut dire.
Voilà, c'est un nouveau jeu, ça amène des variantes intéressantes de ces jeux là regroupés. Moi, je prends du plaisir à y jouer. Ça dépend. Alors. On va dire ça sur tous les jeux de société, ça dépend de qui est autour de la table, ça dépend de l'ambiance, ça dépend, voilà, c'est toujours, un jeu de société est toujours un peu contextuel aussi. J'ai fait des parties où effectivement ça marchait pas très bien, tu vois, ça se passait des cartes, les gens regardaient, enfin, et j'ai fait des parties où c'est très animé, très sympathique, donc ça dépend toujours. C'est un jeu, c'est un peu un mélange jeu de communication, jeu d'ambiance quand même, donc ça demande quand même qu'il y ait un certain état d'esprit autour de la table pour que la mayonnaise prenne. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé le jeu.
Et le jury du festival de Cannes approuve tes paroles.
Voilà.
OK. Donc, moi j'en ai parlé, hein, j'ai été déçu en fait de pas trouver un côté frénétique dedans, mais autrement Autrement, oui, le jeu apporte quelque chose dans le dans cet univers de jeux de communication à base d'images.
Ouais.
Maintenant, voilà. Bon, en tout cas, c'est mieux que One Key. J'ai essayé aussi, j'ai pas trouvé ça transcendant. Moi, je vais préférer Mysterium et je vais préférer Mysterium quand même et Codenames pour le coup.
Ouais, ben. Alors moi Mysterium j'aime bien mais tu vois ça c'est beaucoup plus court qu'un Mysterium.
Mmh, ouais.
Puis Mysterium c'est un pur coopératif. Alors j'aime bien hein, mais je trouve ça change. Enfin vraiment pour ouais, moi c'est pas
c'est-à-dire ça reste différent.
Voilà, c'est la sensation est assez différente.
Professeur.
Moi pour le coup, j'ai fait juste une seule partie donc ouais. Bon après ça m'a pas trop donné envie d'y rejouer derrière. Le mashup m'a pas transcendé non plus. Parce qu'il y avait pas trop grand chose de nouveau à part le côté vraiment temps réel et bon moi c'est ce que je note le plus hein, c'est le côté temps réel et le côté spatialité des déplacements quoi. Mais moi un écueil qu'on n'a pas trop soulevé c'est aussi le côté toutes les illustrations sont un peu dans le même univers et du coup on avait trouvé ça assez dur en tout cas avec Cyrus je me souviens on en avait débriefé après notre partie mais on avait trouvé ça assez dur de communiquer des idées. Dans la mesure où toutes les illustrations se ressemblent un peu, en fait.
Alors, moi, mais alors, non, on a joué une version. Je sais pas qu'elles se ressemblent un peu, c'est que c'est toujours des scènes. Bah, je sais pas, je suis justement content, c'est très différent.
C'est dans toujours le même, des scènes c'est dans... urbaines.
Bah, c'est des scènes de vie dans une ville, en fait. Hein. Ouais. C'est le principe de la ville. Hein. C'est
des animaux. Enfin, tu vois, le fait d'avoir dans Dixit et dans Mysterium, vu qu'ils étaient dans des univers un peu plus perchés, quoi, ils se permettaient de mettre des trucs très très différents, même au niveau des couleurs ou des choses comme ça, très tranchés. Alors que là, bah, c'est plus dur.
Bah, c'est le côté très ancré dans la ville, et donc c'est des scènes dans la ville, et forcément.
Mais du coup, je trouve que c'est un écueil du jeu qui fait que la partie a moyennement marché quand on y a joué, quoi.
Ah ouais, moi, je trouve ça juste, enfin, pour contrebalancer un peu, moi, je trouve ça justement intéressant parce que les associations sont difficiles, effectivement. Les associations de cartes sont assez difficiles. Et ce qui crée, en fait, des erreurs, mais qui sont pas pénalisantes comme dans Codenames. C'est-à-dire que tu vas pas prendre le bon chemin, mais tu vas pouvoir te rattraper. Tu vois, c'est pas si pénalisant que ça au final.
Ouais.
À part si tu vas vraiment sur des cartes police, où tu...
Oui, bien sûr.
Et, justement, ça rend le rôle, ça rend la connexion entre l'indique et le récepteur, super importante. Effectivement, comme je te dis, des fois,
c'est ça aussi qui, tu vois, pour moi, qui ralentissait le jeu.
Ouais.
Et du coup, ça devient tellement, il faut vraiment aller chercher dans des détails, machin. Du coup, t'es obligé de regarder un peu la carte de près, t'es obligé de, tu vois, quelle est la différence entre celle-là et celle d'à côté, pour qu'il m'a pas donné, tu vois, et...
Mais ça, encore une fois, ça dépend de comment tu joues, parce que tu peux dire, je vais partir sur un détail ou pas, tu peux partir sur un ton de couleur, partir sur des associations d'idées complètement différentes, c'est vraiment qui fait le sel du jeu.
Un jeu comme ça en jouant sur les tonalités de couleurs, c'est y a pas trop d'intérêt quoi du coup.
Bah je sais pas, dans Dixit, moi j'ai plein de parties de Dixit où il y a eu des choses sur les couleurs, il y a eu des choses.
Mysterium, même Mysterium.
Ouais, Mysterium
ça
hein.
Se fait souvent ça.
Enfin ça se fait souvent et c'est pas dérangeant si ça marche. Enfin et encore une fois, si tu joues que sur la tonalité de couleurs, tu vas être bloqué, je pense. Tu vois, c'est la variété de choses que tu vas. Enfin. D'ailleurs, moi, je trouve ça plus intéressant que pénalisant, personnellement.
Mysterium, au final, les cartes que tu dois deviner, donc les personnages, les objets et les lieux, sont dans la même thématique.
Ouais.
Tandis que les visions, elles, sont dans des thématiques toutes vraiment très tranchées. Ouais. Et là, en fait, tu vois, il suffirait juste d'un truc. Peut-être que juste les indices indiques devraient être des trucs un peu différents. Alors que le plateau pourrait être identique, et là ça changerait un truc.
Ça pourrait être des scènes du plateau, quoi.
Ouais. C'est ça. Là, je trouvais que même les cartes que l'indique donnait ressemblaient effectivement aux scènes qu'il y avait sur le plateau, et du coup, c'était, ça faisait que tout se ressemblait un peu, et voilà. Après.
Ouais.
Voilà. Bon, ça c'est mon point négatif fort.
Ouais.
Moi, ça c'est mon feeling, voilà. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement le côté frénétique, qui faisait que, un point que j'aime bien moi dans Codenames, des cryptos, les trucs comme ça, c'est le côté vraiment discussion. Alors quand tu joues à 6 du coup, hein, à 6 ou plus, c'est le côté discussion entre les récepteurs. Ouais. Et là, tu fais ta discussion entre récepteurs, mais en temps réel. Ouais. Et du coup, j'adore le stress que ça te donne, parce que du coup, c'est vraiment un feeling différent de Codenames où Codenames, tu peux vraiment prendre le temps de réfléchir, etc. Des cryptos pareil. Que là, non, t'es plus un peu dans le stress. Mais ça, tu l'avais déjà dans Mysterium, en fait. Hein. Parce que Mysterium, t'as quand même un sablier qui te limite.
Ouais, mais en vrai, le fantôme, il peut laisser du temps. Ouais.
Non, c'est parce que moi je joue pas.
C'est quand il donne la dernière carte.
Ouais, moi je joue pas comme ça, Mister. Ouais, moi j'attends que le fantôme ait tout donné avant de lancer le sablier.
Mais c'est ça, ouais.
Ouais, c'est comme ça.
Mais donc du coup il peut donner.
Mais j'attends qu'il
pas donné la première carte. Tu vois.
Non, alors moi en fait non, c'est pas ça que je change comme règle, c'est que le fantôme donne tout face cachée.
Ouais.
Ah oui,
on lance le sablier et là on révèle tout.
On retourne. Ah,
ouais, chaud, ouais, sinon oui, ça a aucun intérêt. Ouais.
Là, c'est pas comme ça la vraie règle.
Mais... Ouais, mais la vraie règle n'a aucun intérêt, voilà.
Ok, voilà.
Sur l'association de cartes, tu vois. Enfin là, j'ai des exemples sous les yeux, mais t'as des cartes où tu vas avoir de la bouffe, t'as des cartes où tu vas avoir de l'eau, t'as des cartes où tu vas. Enfin, tu vois, t'as quand même des, t'as des éléments, même si c'est effectivement ça se ressemble un peu plus.
Peut-être pas eu de bol ou peut-être que toutes les cartes étaient pas faites, je sais pas.
Un autre jeu avec lequel je le rapprocherai un peu, c'est Tokyo Train. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, Tokyo Train,
beaucoup aussi,
parce que c'est aussi un jeu en équipe
et voilà, beaucoup plus frénétique Tokyo Train.
Plus frénétique.
Clairement.
Mais en fait, t'as aussi cette idée de spatialité et dans Tokyo Train, t'as vraiment l'idée de dans quel sens je vais résoudre mon puzzle.
Oui.
Enfin, dans quel sens je vais faire mes déplacements pour résoudre mon puzzle.
Et là, s'il se trompe, tu dois recommencer ton puzzle. Ouais. Là, c'est un peu pareil. Si
voilà, c'est dans quel sens je vais faire le chemin pour aller à tel indice. Et s'il se trompe, effectivement, là, tu dois réadapter ton plan.
Ton chemin,
Et ça, j'ai trouvé ça intéressant.
C'est vrai que la comparaison est pertinente.
Mais voilà, après, bon, c'est un énième jeu Libellude avec des illustrations où faut deviner des trucs. Bon, c'est...
Ouais.
Voilà, c'est ça m'a
comme j'ai pas joué à One Key, mais enfin Shadow, j'ai trouvé un intérêt par rapport à Dixit et Mister, enfin j'ai trouvé que c'était suffisamment différent pour qu'il y ait un intérêt.
Ouais, non, mais Shadow il est mieux qu'One Key, je trouve. Shadow au moins t'as vraiment un truc bien nouveau.
Ouais.
One Key pas trop quoi, tu vois, c'est du principe de chaud froid, il y a vraiment rien de bien foufou quoi.
Ça roule. Et ben vous voulez rajouter quelque chose ou je refais la petite fiche signalétique. Donc, je vous ai parlé de Shadows Amsterdam, un jeu de Mathieu Aubert, édité par Libellude, illustré par le studio M81, disponible chez Philibert pour 22,50€.
Merci Benofix.
Ben, merci à vous, et puis on va pouvoir retourner
merci
à table
professeur
de jeu.
D'être venu participer à notre émission.
Merci
spéciale,
à vous de m'avoir proposé.
Ces jeux. On remercie également nos auditeurs.
Tout à fait.
N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette chronique ou pas, à venir nous le dire dans les commentaires.
C'était la dernière de la saison, faut
c'est
le souligner.
C'est la dernière de la saison.
Alors, on fait comme Sortons le Grand Jeu. Il faut 30 commentaires pour que vous continuez.
30 commentaires, ok. À 30 commentaires, on continue le jeu du mois. Sinon, voilà, on verra.
Ciao. si vous avez aimé, si vous avez aimé cette chronique ou une autre, vous pouvez aussi nous le signifier via Tipeee ou PayPal. C'est important, ça nous aide à faire plein de choses, à racheter du matériel. Là, pour rien vous cacher, on a une fiche qui a sauté.
Ouais, la table.
Donc on a 4 micros, mais en fait, il y en a que 3 qui marchent.
On a dû se partager un micro avec Père Castor, je sais pas.
Donc, voilà.
Ça s'est entendu, cette proximité.
Ouais, c'est vrai, je pense.
Intime.
On a senti la chaleur entre vous. Et on vous remercie donc tous. On vous dit à la saison prochaine.
Ouais.
Et puis d'ici là,
jouez bien.